Vous écoutez
RMC.
Très bon réveil à tous. Merci d'avoir choisi RMC et RMC Story. Il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Il est suspecté d'avoir attendu ses compères au pied du Louvre au matin du 19 octobre. Le dernier membre présumé du commando du casse du Louvre interpellé hier matin, les bijoux, eux, restent introuvables. Quelques points de désaccord à régler. L'optimisme de Donald Trump ce matin en vue d'un accord de paix en Ukraine. Le président américain va envoyer un émissaire la semaine prochaine à Moscou. Et l'espoir qui renaît après la victoire de l'OM 2-1 hier soir en Ligue des Champions face à Newcastle.
L'enquête progresse un mois après le casse du Louvre.
Quatre personnes, je vous le disais, ont été interpellées hier matin. Quatre nouveaux suspects dans cette affaire placés en garde à vue. Deux femmes, deux hommes, parmi eux Julie Brault, le quatrième et dernier membre présumé du commando de cambrioleurs.
Oui, cet homme âgé de 39 ans a été interpellé à Laval, en Mayenne, déjà connu des services de police pour vol et recel. Il est suspecté d'être l'un des deux conducteurs qui ont attendu au pied du Louvre à scooter avant de prendre la fuite avec les bijoux dérobés. À ses côtés, un autre homme âgé d'une trentaine d'années et deux femmes de 31 et 40 ans sont également interrogées en garde à vue, tous originaires de la région parisienne. On ne sait pas encore ce qui leur est précisément reproché à ce stade. Mais une chose est sûre, c'est un important travail d'enquête mené depuis plus d'un mois et qui a permis de remonter leurs traces, notamment l'analyse de la téléphonie ou encore des traces ADN retrouvées sur les lieux du cambriolage. Autant de données qui ont déjà mené à la mise en examen de quatre autres personnes dans cette affaire, dont trois membres présumés du commando de cambrioleurs.
Et toujours pas de traces en revanche des bijoux dérobés dans ce cas, au scénario déjà établi, presque anticipé. Résultat d'un audit publié en 2018 que s'est procuré le journal Le Monde, dans lequel la vulnérabilité du balcon utilisé par les cambrioleurs est pointée du doigt. Le document mentionne également le mode opératoire utilisé par les cambrioleurs, à savoir l'utilisation d'un monte-charge qui, je cite, faciliterait l'accès à ce balcon. Nouvelle attaque de drones cette nuit en Ukraine du côté de Zaporijjia, la Russie qui intensifie ses frappes alors qu'un accord de paix est sur la table. Au point d'être conclu, c'est toute la question. Un émissaire américain va se rendre à Moscou la semaine prochaine. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant RMC à Washington. Étape de plus dans un processus de paix, Antoine, engagé par les États-Unis optimistes ce matin.
Oui, Donald Trump donne un coup d'accélérateur diplomatique. Steve Witkoff, son homme de confiance, et son gendre Jared Kushner vont rencontrer Poutine à Moscou la semaine prochaine. En parallèle, un autre émissaire américain sera lui chargé des discussions avec Kiev. Trump, en tout cas, l'assure. Il ne reste que quelques points de divergence à régler. Une façon très optimiste de voir les choses. Les discussions, en fait, tournent autour de cette feuille de route présentée par les États-Unis la semaine dernière. Ce plan, au départ très favorable à la Russie, qui a finalement été réécrit par les Américains et les Ukrainiens. La nouvelle version doit être encore approuvée par le Kremlin et elle n'a pas tranché les questions les plus sensibles, les concessions territoriales, la taille de l'armée ukrainienne ou encore l'adhésion à l'OTAN. Il reste encore énormément de travail à accomplir. En attendant une éventuelle percée dans les négociations, Trump n'envisage pas de rencontrer Zelensky ou Poutine. Il explique qu'il le fera uniquement lorsque l'accord sera finalisé.
Et dans ce contexte, on a appris à la mise en examen de quatre personnes, dont trois écrouées à Paris, soupçonnées d'espionnage économique au profit de Moscou et d'ingérence après la découverte d'affiches collées sur l'Arc de Triomphe début septembre. Nouvelle séquence judiciaire pour Nicolas Sarkozy. La Cour de cassation doit dire aujourd'hui si le droit a bien été respecté dans la condamnation en appel de l'ancien président à un an de prison, dont six mois avec sursis dans le cadre de l'affaire Big Malion. Pas de retour à la case prison. En revanche, pour l'ancien président, sa peine sera automatiquement aménagée. Députés et sénateurs vont se retrouver ce soir en commission mixte paritaire pour travailler sur le budget de la Sécu, revu et corrigé par les sénateurs qui ont retoqué hier soir la suspension de la réforme des retraites.
7h04 sur RMC, le Parlement prochainement appelé à se prononcer sur la baisse des prix de l'électricité.
C'est en tout cas la volonté de Sébastien Lecornu. Il a demandé à son ministre de l'économie de plancher sur différents scénarios. Plusieurs options sont sur la table. Une promesse qui s'inscrit, Hélène Terzan, dans un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie voulu par le Premier ministre.
Oui, c'est l'une des cinq priorités absolues sur lesquelles il veut que les parlementaires se positionnent. Pour faire baisser la facture d'électricité des ménages et des entreprises, l'entourage du Premier ministre fait savoir que plusieurs options sont sur la table pour être présentées au Parlement. Il est même question d'un grand plan écologique de décarbonation de l'électricité et de l'énergie. Hier, à l'Assemblée, le ministre de l'économie, Roland Lescure, évoquait déjà la piste de la taxation de l'électricité.
Il faut que la fiscalité soit en phase avec nos objectifs de transition
transition écologique. Le débat sur les assises, il doit avoir lieu, notamment évidemment dans le cadre de l'examen du projet de loi de finances.
Car aujourd'hui, la taxation de l'électricité est plus élevée que celle sur le gaz importé. Des décisions seront prises d'ici Noël, poursuit le ministre. Mais déjà, le monsieur énergie du RN, Jean-Philippe Tanguy, dénonce une énième déclaration totalement vide pour gagner du temps. Son parti plaide surtout pour une baisse du coût de production français de l'électricité.
Et vous, est-ce que vous estimez qu'on paye l'électricité trop cher en France? Vous êtes particulier, vous êtes artisan, vous êtes commerçant. Combien est-ce que vous payez votre électricité? Appelez-nous au 3216 pour en témoigner. Et puis ne manquez pas, juste après le journal de Thibault, l'expert en énergie, Nicolas Goldberg, qui nous dira si vraiment ça va baisser et comment.
Il est 7h05, vous écoutez RMC. L'inquiétude ce matin des salariés d'Auchan en difficulté. Le distributeur nordiste affiche sa volonté de passer ses 294 supermarchés en franchise sous la bannière du groupement des mousquetaires Intermarché et Netto. Si le projet prévu pour 2026 doit encore être soumis à l'autorisation des autorités de la concurrence, les syndicats redoutent le pire. Un an, Lou Garnier, après l'annonce d'un plan social et la suppression déjà de 2400 postes.
L'annonce a provoqué un choc chez les salariés, selon René Carrette. Il est délégué syndical central CFDT chez Auchan.
C'est hyper violent à apprendre que 11 000 salariés vont quitter l'enseigne Auchan pour un peu un avenir, on va dire, incertain. C'est dur à entendre.
Alors les employés vont rester des salariés d'Auchan. Le groupe reste aussi propriétaire du fonds de commerce. Mais les employés vont désormais travailler pour les enseignes Intermarché et Netto. Contacté par RMC, le groupe Auchan nous assure qu'aucun emploi n'est menacé. Difficile à croire pour les syndicats.
En général, quand vous avez comme ça une reprise en franchise, dans les 6 mois qui suivent, vous avez une baisse de la masse salariale obligatoirement.
Surtout, les salariés pourraient perdre leurs avantages.
Les jours de congés supplémentaires en fonction de l'ancienneté, on a des plans d'épargne entreprise, tout ça, demain, ils le perdront. Chaque supermarché va devoir négocier avec son directeur. Ça correspond en moyenne, par salarié, environ 2 500 € de perte par an.
Il espère des engagements de la part du groupe concernant les emplois et leurs acquis sociaux.
Une victoire qui fait du bien, beaucoup de bien, celle de l'OM hier soir en Ligue des Champions 2-1 face à Newcastle, deuxième succès de la saison dans la compétition pour les Marseillais, renversant mené dès les premières minutes de jeu. Et l'artisan de cette victoire, Clément Brossard, c'est le vétéran Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé hier soir au Vélodrome.
Remplacé à 5 minutes de la fin, l'attaquant marseillais a bien mérité son ovation. Il a été hier soir le héros des supporters.
Oba nous a tout le temps fait rêver, il nous fera tout le temps rêver. Ah, Aubameyang, il fait plaisir.
Franchement, s'il continue comme ça en Ligue des Champions, c'est carré.
Merci, Pierre-Emerick Aubameyang.
Plusieurs occasions manquées en première période, mais un doublé au retour des vestiaires en 5 minutes. Et voilà l'OM devant, le défenseur Benjamin Pavard est séduit.
Il n'y a rien à prouver à personne. Sa carrière, elle parle pour lui. C'est un grand buteur, c'est aussi une super personne. Et il mérite parce que c'est un bosseur au quotidien. Je suis très content pour lui.
Un 19e puis 20e but en Ligue des Champions, l'attaquant de 36 ans s'offre une seconde jeunesse, selon Timothy Weah.
Un joueur qui a 19 ans quand il joue, c'est quelqu'un qui a pas d'ego et qui travaille pour l'équipe. Donc il mérite tout ce qu'il arrive aujourd'hui et je suis très fier de lui aussi.
Il faudra pourtant s'en passer à partir du 21 décembre, car le buteur marseillais partira au Maroc jouer la Coupe d'Afrique des Nations avec le Gabon.
L'OM 19e au classement avant les matchs de ce soir. PSG Tottenham, rendez-vous sur RMC 21h, 18h45 avant ça. Monaco se déplace sur la pelouse des Chypriotes de Paphos.
C'était le journal de Thibaut Texer, 7h08. Vous êtes nombreux à réagir à cette proposition du candidat écolo à Paris, David Béliard, qui veut interdire les SUV de stationnement dans la ville. En gros, vous aurez le droit de traverser la ville, de vous stationner en parking souterrain, mais pas de vous arrêter sur la voie. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Laurent, comment ça va? Vous êtes responsable SAV justement dans l'automobile du côté
exactement.
De l'Ardèche. Laurent, oui. Comment vous réagissez?
Je réagis de manière vigoureuse. En faux avec les propos de notre élu écologiste. Mmh. Il faudrait qu'il se renseigne un tout petit peu. Les SUV dont il parle, pour moi, c'est pas le SUV, le danger, c'est le conducteur, premièrement. Mmh. Deuxièmement, les SUV dont il parle sont souvent équipés d'aides à la conduite qui sont bien plus performants sur les SUV que sur des berlines.
Oui, parce que ce que vous dites, Laurent, c'est qu'effectivement, vous réagissez à un point, c'est que son argument à David Béliard, c'est la sécurité. C'est-à-dire qu'il dit, oui. En fait, il y a moins de visibilité sur un SUV. Vous vous dites,
SUV,
vous en vendez, j'imagine.
Oui.
Vous en vendez, vous savez de quoi vous parlez, quoi.
Un petit peu, et puis surtout, si on parle effectivement, c'est le poids qui est un danger. À ce compte-là, il interdit la circulation de tous les poids lourds, de tous les autobus dans Paris, et effectivement, les piétons seront en sécurité, puisqu'effectivement, le rapport poids-puissance C'est ce qui fait, c'est ce qui crée le danger. Les véhicules sont mieux équipés en SUV. Et puis je le redis, vous mettez une berline avec 300 chevaux dans les mains d'un jeune conducteur, il est tout aussi dangereux que quelqu'un qui roule en SUV.
Oui, qui est un bon père de famille, donc, si je puis me permettre l'expression.
Et puis j'aurais une question à lui poser. Est-ce qu'il a déjà cherché à prendre le métro? Il nous parle des transports en commun à Paris. Moi, je suis né à Paris et j'ai grandi à Paris. Est-ce qu'il a déjà cherché à prendre le métro, le bus, avec une maman et deux enfants en poussette? Et je ne parle que de deux enfants.
Parcours du combattant. Moi, je vous le dis. Là, j'en ai plus en poussette, mais j'en ai eu. Et c'est vrai que c'est le parcours du combattant à chaque fois pour descendre. Et il faut espérer tomber sur une bonne âme qui vient vous aider à porter la poussette avec vous. Moi, maintenant, je le fais systématiquement parce que je sais et je l'ai vécu. Laurent, ça marche toujours autant les SUV, vos clients, ils en demandent?
Je suis dans une région où le 4x4 est très utile puisque je travaille sur la région grenobloise. Mmh. Et effectivement, en montagne, le SUV a un fort succès. Ouais.
Oui, j'imagine. Merci beaucoup Laurent d'avoir témoigné au 32-16. Ne manquez pas la voix de droite ce matin, puisqu'on est mercredi, à 7h50, ce sera Louis Sarkozy. Il veut interdire, j'ose le dire, je crois qu'il veut interdire David Beignard plutôt que les SUV. Il vous le dira à 7h50 mieux que moi, 7h11 sur RMC. Et faire baisser la facture d'électricité pour les ménages et les professionnels, c'est ce que veut maintenant le gouvernement. C'est la nouvelle priorité de Sébastien Lecornu, faire baisser les factures. Comment? Pour qui? Quand? Nicolas Goldberg est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Spécialiste des questions d'énergie pour le cabinet Columbus Consulting, réduire les prix de l'électricité, c'est possible, mais ça aura un coût et vous nous le dites dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h15. Et si nos factures d'électricité baissaient? Bonjour Nicolas Goldberg, vous
Bonjour.
Êtes consultant chez Columbus Consulting, vous êtes spécialiste des questions d'énergie, c'est devenu l'une des 5 priorités du gouvernement. Sébastien Lecornu qui nous annonce qu'il a demandé au gouvernement en priorité de faire baisser les factures d'électricité. Pourquoi? Parce qu'elles sont très hautes en ce moment?
Les factures d'électricité, elles sont hautes. Surtout, c'est un IA taxe. Il y a quand même énormément de taxes sur les factures d'électricité, près d'un tiers pour les ménages. Et surtout, le message que veut passer ce gouvernement, c'est qu'il faut électrifier notre économie. Ça veut dire qu'il faut passer aux véhicules électriques, les pompes à chaleur, mettre des fours industriels dans l'industrie. Et donc ça, forcément, si vous avez une électricité qui est un IA taxe et dont vous augmentez les taxes, ce qu'a fait le gouvernement ces deux dernières années, vous envoyez un message qui est négatif.
Je vous avoue que c'est ce que je trouve assez cocasse. C'est que c'est quand même eux qui ont monté les taxes. Je fais, pour ceux qui nous regardent en télé, vraiment le signe. J'ai l'impression ils ont monté et puis maintenant c'est eux qui disent « Oh bah faudrait descendre ». Peut-être ils pensaient plus tôt.
On est complètement d'accord. Alors après, les taxes, elles avaient baissé pendant la crise énergétique et c'était très bien. Après, en 2024, le choix a été fait par le gouvernement de l'époque et Bruno Le Maire de remonter les taxes, ce qui était une bêtise. On en a parlé à ce micro.
Je me souviens de vous, à ce même micro, Nicolas Goldberg, qui déjà alerte. Vous disiez, mais c'est absurde de remonter les taxes.
C'était absurde de les remonter autant, surtout. Parce que certes, il y a la question de l'équilibre budgétaire, mais au niveau du signal politique, c'était terrible. C'est-à-dire qu'en 2024, on pouvait avoir une stabilité des prix de l'électricité. Et le choix avait été fait par le gouvernement de l'époque d'augmenter les taxes et donc d'avoir une augmentation des prix de l'électricité.
Vous dites c'était ni à taxes, ça représente quel pourcentage sur 1 euro payé?
En gros, vous considérez que sur 1 euro payé de facture, il y a 33 centimes de taxes. 30 centimes de taxes.
Un tiers.
C'est beaucoup, c'est un tiers, effectivement. Alors, vous avez plusieurs taxes, vous avez de la TVA, vous avez de l'accise.
Il faut rappeler que
la TVA n'est pas payée par les entreprises. Donc, si vous voulez agir sur la compétitivité des entreprises dans l'électricité, c'est pas la TVA qu'il faut toucher, contrairement à ce que certains partis politiques disent. Donc là, il y a des chances, si le gouvernement veut faire baisser immédiatement les factures, que ce soit les taxes qui faille bouger. Et il faut bien dire quelque chose, c'est que l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, il y a plus de nucléaire régulé dans vos factures. C'est-à-dire que jusqu'à la fin de cette année, c'est-à-dire le mois prochain, EDF vend une partie de son électricité nucléaire à 42 euros, quel que soit le prix. Et ça, à partir de l'an prochain, c'est terminé parce que ça grévait les finances d'EDF.
Et ça aura quoi comme conséquence?
Alors, ça a un impact forcément négatif sur les factures des consommateurs.
C'est peut-être ça qu'ils anticipent, là, le gouvernement.
Alors non, parce que les prix de marché ont tellement baissé que en fait l'année prochaine, si on ne touche à rien, les prix de l'électricité devraient rester stables. Voilà. Malgré le fait que EDF ne vende plus son électricité à 42 euros, on a des prix de marché qui sont tellement bas que ça devrait se traduire par une légère baisse, mais c'est cette baisse que le gouvernement voudrait amplifier pour envoyer enfin un signal politique en faveur de l'électrification.
Enfin, dites-vous, effectivement, mais la France produit pourtant déjà aujourd'hui une des électricités les moins chères d'Europe, on est bien d'accord.
Alors c'est vrai, et d'ailleurs sur le marché européen de l'électricité, alors il n'y a pas un prix européen de l'électricité, hein, y a bien un prix en France sur un marché européen, il est extrêmement bas, hein, c'est-à-dire que les Allemands sont autour de 90 euros du mégawattheure, nous on est plutôt autour de 50 en ce moment, donc il y a un vrai avantage de la France dans son électricité. Le marché maintenant qu'il est bas, c'est un avantage pour les consommateurs. Ceux qui vous disent qu'il faut sortir du marché européen pour faire baisser les prix vous racontent un peu n'importe quoi. Donc, il y a une électricité qui est pas chère, mais il y a un signal politique quand même qui est pas terrible quand on dit que c'est une taxe, enfin, c'est une commodité qu'on taxe alors qu'il faudra en consommer plus.
Une dernière question. Baisser les taxes, ça on l'a bien compris, c'est vraisemblablement vers ça qu'il s'oriente. Est-ce que ça pourrait aller carrément plus loin, vers une électricité subventionnée? Je parle de l'exemple allemand qui a décidé de subventionner l'électricité pour relancer son industrie. Est-ce que ça, c'est envisageable pour la France?
Alors, c'est envisageable, c'est-à-dire que les Allemands ont appliqué un cadre européen pour faire ça. Par contre, vous me permettrez l'expression, ce que font les Allemands, c'est pas terrible, hein. C'est-à-dire qu'ils agissent sur la moitié de la facture des industriels, donc pas des ménages et des petites entreprises, pour seulement une petite part limitée dans le temps et que les industriels devront réinvestir immédiatement. Et comme je l'ai dit, les industriels aujourd'hui, ils ont un prix de marché qui est autour de 90 euros, là où la France est à 50.
Donc, oui, donc on est déjà beaucoup plus compétitif.
On est déjà beaucoup plus compétitif. C'est bien sur les prix de marché, les taxes qu'il faut agir, peut-être les coûts de réseau, mais ça c'est un peu plus compliqué. Mais surtout, il faut agir sur l'équipement, parce qu'aujourd'hui, pourquoi les ménages consomment pas plus d'électricité? C'est parce que ça coûte cher, enfin c'est beaucoup d'argent de laisser son véhicule thermique pour un véhicule électrique, et c'est peut-être là qu'il faut agir en finançant les véhicules électriques avec du leasing social, avec des aides.
Merci beaucoup Nicolas Goldberg, spécialiste des questions d'énergie pour le cabinet Columbus Consulting. Il est 7h20, l'historien d'Apolline Matin vient d'entrer dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, c'est l'heure des marchés de Noël. Le marché de Noël de Strasbourg ouvre ses portes à 14h tout à l'heure. 3 millions de personnes attendues. Les marchés de Noël ne connaissent pas la crise.
Oui, les marchés de Noël ont survécu à tout, même au nazi qui adorait ça, figurez-vous.
Oh là là, c'est pas forcément une bonne nouvelle ça. Et puis Arnaud Demange qui pirate le face-à-face dans un instant. Mon invité, c'est François Hollande ce matin. Ne bougez pas, on se retrouve dans 50 secondes sur RMC. Il est 7h20.
RMC, Apolline Matin.
7h21 et vous êtes bien sur RMC et à la télé sur RMC Story. Quand l'actualité est claire, notre actualité avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, c'est l'ouverture du mythique marché de Noël de Strasbourg jusqu'au 24 décembre dans la capitale alsacienne. Et les marchés de Noël, ça cartonne et désormais c'est partout en France.
Et oui, leur succès ne se dément pas, hein, c'est en croissance constante. L'année dernière, les marchés de Noël en France ont rassemblé près de 150 millions de personnes pour des retombées estimées à 10 milliards d'euros quand même.
10 milliards d'euros
de retombées.
C'était pas une spécialité française au départ?
Ah non, pas du tout. C'est une vieille, très vieille tradition autrichienne à l'origine. Le premier marché de Noël, c'était à Vienne en 1294. Alors au départ, c'était un peu des sortes de fêtes de village. Hein. On vendait un peu de tout, de la nourriture, des bibelots. Noël était surtout un prétexte pour se réunir. Petit à petit, ça va conquérir l'Allemagne. Alors ça a attiré du monde, mais c'est devenu de plus en plus malfamé et même très dangereux. Si bien qu'au 19e siècle, les marchés de Noël, c'était un repère d'ivrognes et de voyous.
Donc on n'y allait plus?
Alors en tout cas, plus la bourgeoisie. Hein. Mais tout change en 1933, quand les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne. Les marchés de Noël reviennent en force. Pourquoi? Parce que Hitler en personne a eu l'idée d'exploiter cette tradition, mais à la sauce nazie, il en impose dans toutes les villes. On ne vendait que des produits 100% allemands. Il y avait des ateliers organisés par le parti, de la musique militaire, des petits blondinets partout qui chantaient des chants nazis. Bref, une sorte de foire nationaliste et réactionnaire qui n'avait évidemment plus rien à voir avec la religion chrétienne.
Ça me fait regarder, je vous avoue, les marchés de Noël un petit peu différemment là, depuis... Arthur. Le public était au rendez-vous?
Et oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Un chiffre, en 1936, le marché de Noël de Berlin a rassemblé 2 millions de personnes pour l'époque. C'est colossal.
Après la guerre, ça reste à la mode donc?
Alors, plutôt, oui, ça reste à la mode, même si évidemment, ça n'a plus rien à voir avec le nazisme. Hein. Les marchés de Noël renouent avec ce qu'on pourrait appeler le Noël chrétien. Ça explose surtout dans les années 60 et ça devient le lieu où on vient acheter son sapin, ses décorations de Noël. le pain d'épices pour les enfants, etc.
Et en France, où était le premier marché de Noël ?
À Strasbourg, la ville qu'on surnomme d'ailleurs la capitale de Noël. Et ça date, hein, puisque la première édition a eu lieu en 1570. Depuis, c'est devenu une institution. C'est le premier marché de Noël de France. 3,5 millions de visiteurs l'an dernier. Et aujourd'hui, les marchés de Noël pullulent en France, hein, et pas seulement en Alsace, puisqu'il y en a maintenant dans le sud de la France, à Nice ou Aix-en-Provence par exemple, où ça n'était pas du tout la tradition.
Merci Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Mon invité tout à l'heure à 8h30 sera l'ancien président de la République, François Hollande.
Bah oui, Apolline.
Bah oui,
on se fait plaisir. Après Vincent Jeanbrun hier, un nouveau sexe symbole dans le face-à-face. François Caliente Hollande. C'est devenu le calendrier de l'avant des beaux gosses, hein, votre interview. Je suis sûr qu'Alain Bauer est devant son miroir en se brossant la moustache en disant « C'est sûr, demain c'est moi !» Et elle va craquer, enfin. C'est ta chance, Alain. Allez, c'est ta chance. En plus, attendez, c'est pas n'importe qui, François Hollande. C'est quand même le député de la première circonscription de Corrèze. Bon, alors, il n'y a qu'une circonscription en Corrèze et ils sont 250 habitants, mais c'est balèze quand même. Alors tiens, je parlais à Géraldine Demory dans les couloirs, elle est formelle. Si François Hollande est dans nos locaux, ça veut dire qu'il va pleuvoir sur Paris toute la journée. Soyez prudents. François Hollande qui n'exclut pas de se présenter à la présidentielle. Alors après, bon, c'est comme au foot, hein. Les stats sont pour lui. Il s'est présenté une fois, il a été élu, c'est du 100%. Alors que Mélenchon, c'est le FC Metz de la politique. 3 matchs, 3 défaites. Et puis, c'est pas comme si Olivier Faure et Raphaël Glucksmann éclaboussaient la campagne de leur charisme. Vous l'avez vu le débat Glucksmann-Zemmour l'autre soir?
Non.
Non. Alors si comme Glucksmann, vous l'avez raté, il est en rediffusion sur YouPorn dans la catégorie BD. DSM et domination.
Oh non.
Donc voilà, battre fort et Glucksmann à une primaire, c'est un peu comme gagner un bras de fer contre Philippe Croizon, ça se fait.
Oh,
c'est
non.
Comme un trivial poursuite contre Delogu, quoi. Anne Hidalgo a déclaré François Hollande ne serait pas un bon candidat. Puis elle s'y connaît, elle a fait moins de 2%. 1,75%. C'est pas un score à une présidentielle, c'est un taux de livret A.
C'est mieux que le livret A.
Dans un entretien au Monde, François Hollande attaque les Trump et Poutine. Il les accuse de pousser l'extrême droite chez nous pour nous affaiblir. Alors oui, bon, peut-être, mais ce qui nous affaiblit aussi vachement, c'est nos 3500 milliards de dettes.
Ah oui.
Et je me suis dit, mon Dieu, si ça se trouve, Bruno Le Maire était envoyé par les Russes. En fait, c'est Poutine en réunion qui a dit « On va envoyer un missile nucléaire sur Paris, j'en ai marre !» Et il y a un gars qui s'est levé qui a fait « Tovarich Poutine, je m'appelle Bruno Le Merskov et j'ai un autre plan !» Et ça a été le début de nos ennuis. Alors François Hollande va nous détailler la suite à 8h30. À tout à l'heure avec le Bachelor.
Avec
le Bachelor.
Merci Arnaud, on se retrouve dans un instant pour la météo et le journal. Et puis il y aura Louis Sarkozy, tiens, la voix de droite à 7h50. Tu veux interdire d'interdire, vous l'entendrez, il est 7h26.
RMC, Apolline Matin.
Le journal d'Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Non, les ondes du téléphone ne donnent pas le cancer. Aucun lien n'a été démontré à ce jour, dit l'Agence de sécurité sanitaire qui recommande tout de même de la prudence. 3 semaines tout juste après l'attaque à la voiture Bélier sur l'île d'Oléron, le témoignage RMC ce matin de l'une des victimes. Et puis Chine, devant la justice française aujourd'hui, l'enseigne chinoise va tenter de se défendre face à la demande de suspension engagée par l'État après le scandale des poupées sexuelles.
C'est une question que l'on se pose tous à un moment ou à un autre. Est-ce que les ondes de nos smartphones sont dangereuses pour notre santé ?
Eh bien, vous pouvez souffler ce matin, ça ne semble pas être le cas. L'exposition à ces ondes n'augmenterait pas le risque de cancer, selon un rapport de 400 pages publié hier par l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, qui a fait la synthèse de toutes les études sérieuses sur le sujet. Solène Leroux.
Oui, il n'y a pas de lien de cause à effet établi entre l'exposition aux ondes et l'apparition de cancer. Une bonne nouvelle, même si l'agence reste prudente, car dans les milliers d'études scientifiques parues ces 10 dernières années sur le sujet, plusieurs suggèrent un impact des ondes sur la fertilité et le fonctionnement cérébral. Les prochaines expertises se concentreront donc sur ces effets à l'avenir, précise à RMC l'ANSES, qui en profite pour donner quelques conseils à la population. Il y a ce que vous savez déjà, il est préférable d'utiliser son téléphone portable avec modération. Moins connu en revanche, sachez qu'il vaut mieux utiliser des écouteurs ou des enceintes, en clair tout dispositif qui permet d'éloigner le portable de votre corps. Et enfin, quand vous êtes à l'intérieur, privilégiez le Wi-Fi plutôt que le réseau mobile.
Plus que quelques points de désaccord entre l'Ukraine et la Russie, c'est ce que dit Donald Trump, qui assure qu'un accord est proche entre Kiev et Moscou. Il va envoyer son émissaire spécial la semaine prochaine pour rencontrer Vladimir Poutine. Il est 7h32 et c'était il y a 3 semaines, jour pour jour, l'attaque à la voiture Bélier sur l'île d'Oléron, pour laquelle le conducteur a été mis en examen et écroué. Et parmi les 5 victimes, il y a Philippe, qui a accepté pour la première fois de se confier au micro RMC de Pierre Bourgès.
Encore aujourd'hui, on peut voir sur le corps de Philippe de grosses égratignures sur ses genoux, ses mains et sa tête.
Rien de cassé, heureusement, mais la douleur est là pour me rappeler et j'essaie de passer à autre chose.
Si peu de blessures, c'est presque un miracle compte tenu du choc. Ce matin-là, il était à vélo pour aller au travail lorsque la voiture est arrivée derrière lui.
Et puis, en fait, quand je me rends compte, j'étais déjà en l'air sur la bagnole. Je tombe, j'essaie de m'esquiver pour pas que l'individu me roule dessus, quoi. J'étais déjà sur le chemin de l'hôpital quand, à un moment donné, les larmes qui sont coulées et puis j'aurais pu crever.
Ses béquilles l'aident encore à marcher. Aujourd'hui, le cuisinier ne s'est pas tout à fait remis de cet accident.
Je fais quand même un peu plus attention quand je vois une voiture, je m'éloigne peut-être un peu plus. Inconsciemment, il y a encore des séquelles.
Et le pire pour lui, c'est qu'il connaissait le conducteur avec qui il avait partagé quelques verres.
On a quand même vu quelqu'un ensemble, on se connaissait un peu, quoi. J'ai vu que c'était lui, ouais. C'est la colère, c'est la douleur. Enfin, j'aurais jamais dit, ouais, va faire un truc comme ça un jour.
La semaine prochaine, Philippe se rendra au travail à pied avant de pouvoir reprendre plus tard ses trajets à vélo.
À Paris, l'enquête continue de progresser un peu plus d'un mois après le casse du siècle au Louvre. Les joyaux de la couronne n'ont toujours pas été retrouvés, mais 4 nouveaux suspects ont été interpellés hier en région parisienne et en Mayenne. Parmi eux, le probable membre manquant du commando de cambrioleurs. Chine devant la justice aujourd'hui pour répondre à la demande de suspension formulée par l'État après le scandale des poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Le gouvernement veut que sa réouverture en France soit conditionnée à la mise aux normes du géant chinois. Du e-commerce, mais ça s'annonce plus facile à dire qu'à faire, Victor Joannin.
Oui, le juge va devoir estimer si la demande de bloquer la plateforme temporairement n'est pas disproportionnée au regard des nombreux manquements qui lui sont reprochés. La décision sera rendue dans quelques jours, voire quelques semaines, mais selon plusieurs avocats spécialisés, comme Alexandre Archambault, il est peu probable que Shein soit contrainte de fermer.
La responsabilité lorsqu'on vend des produits ou des services illicites en marketplace, elle incombe avant tout aux vendeurs et non pas à la plateforme. La plateforme engage sa responsabilité si elle n'agit pas promptement sur signalement. C'est ce qui semble avoir été fait concernant Shein, puisque la fonctionnalité Marketplace a été suspendue, je crois, le lendemain du signalement.
La plateforme a effectivement fermé la partie du site où elle permet à d'autres fabricants de vendre. Les produits illicites ne sont donc plus accessibles. C'est une première victoire selon Bercy. On fait feu de tout bois et peut-être qu'à force de marteler que le modèle Shein n'est pas vertueux, les consommateurs hésiteront à acheter chez eux, explique un conseiller à RMC. Le gouvernement a aussi obtenu l'ouverture d'enquêtes en parallèle visant Shein, l'une confiée à l'Office des mineurs, l'autre au niveau de la Commission européenne.
Nicolas Sarkozy va-t-il être définitivement condamné pour la 2e fois? Réponse à 14h cet après-midi. La Cour de cassation doit rendre sa décision dans l'affaire Big Malion sur le financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2012. L'ex-chef d'État a déjà été condamné en première instance et en appel.
7h35 sur RMC. Marseille s'offre un peu d'air en Ligue des Champions.
Et revient dans la zone des barragistes avec sa victoire 2-1 hier soir au Vélodrome face à Newcastle grâce à un doublé d'Aubameyang. Ce soir, ce sont les Anglais de Tottenham qui se déplacent sur la pelouse du Parc des Princes pour le PSG qui a très envie de se racheter après sa défaite contre le Bayern Munich le mois dernier, Valentin Jamin.
Oui, les Parisiens n'ont pas l'habitude de perdre chez eux. Ce n'est arrivé que 2 fois en 2025 en Ligue des Champions. Alors l'attaquant Gvisha Kvaratskhelia veut vite repartir de l'avant.
It was a difficult game again.
Cette défaite contre le Bayern a été difficile pour nous. On veut revenir. Cette rencontre est une seconde chance pour regagner à domicile et on va tout faire pour ça.
We'll try to win.
Depuis, le PSG l'a emporté 2 fois en Ligue 1 et récupère peu à peu ses blessés. Le ballon d'or Ousmane Dembélé devrait revenir ce soir face à Tottenham. Premier adversaire du club cette saison en août. Les Parisiens, menés 2-0, avaient fini par gagner la Supercoupe d'Europe, se souvient l'entraîneur Luis Enrique.
C'est un bon souvenir parce que ça finit bien. Je pense qu'on est mieux prêt pour chercher d'être une équipe dominante. Je pense que c'est une caractéristique qui a montré cette équipe. Tout le temps qu'on a eu des difficultés, on a pu les surmonter.
La victoire est aussi importante pour rester dans le top 8 qui permet de se qualifier directement pour les 8e de finale.
PSG Tottenham, c'est à 21h ce soir, un match à vivre en direct et en intégralité sur RMC. Rotten sera en direct du Parc des Princes, suivi de l'afterfoot et du casar enchaîné jusqu'à 1h30 du matin.
Et puis le quintet 13h55 sur l'hippodrome de Deauville.
Et voici le prono de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 6, Ciel de Paris. L'outsider, c'est le 7, Daiki Berry.
C'était le journal des listes d'Angers. 7h36, vous réagissez au prix de l'électricité. Qui pourrait baisser? C'est en tout cas Sébastien Lecornu qui dit qu'il en fait une priorité. Bonjour Mathieu.
Bonjour Apolline.
Mathieu, kiné à Lille. Alors, c'est bien ou c'est pas bien?
C'est encore des effets d'annonce. Hein. Il y a 3-4 semaines, ils ont augmenté la TVA sur l'abonnement de 5,5% à 20%. Donc à un moment, on ne sait plus trop quoi. Hein.
Mmh. Oui, il y a un côté, ça monte d'un côté, ça baisse de l'autre, ouais, pour pouvoir annoncer qu'on le baisse. On a presque l'impression qu'ils ont monté pour pouvoir dire qu'ensuite ils font baisser.
C'est ce qu'ils font depuis des années.
Parce que ça n'est qu'une histoire de taxe, on l'a bien compris, hein, et c'est Nicolas Goldberg qui nous le disait tout à l'heure. Cette annonce de baisse, en fait, c'est juste, après avoir monté les taxes, on les rebaisserait.
Et déjà, étant donné qu'on est le premier pays producteur d'électricité d'Europe, on a le plus gros parc nucléaire, moi je comprends déjà pas pourquoi nos tarifs ils sont aussi élevés. Voilà, donc quand
et encore, ils sont parmi les plus faibles, hein, vous l'avez entendu tout à l'heure, parmi les plus faibles comparés à l'Allemagne, on est quand même nettement en dessous. Vous payez très cher votre électricité, Mathieu?
Raisonnablement, on fait attention. Hein,
on a tous appris à faire attention.
Ouais, c'est ça.
Espérons, en tout cas, j'ai envie de vous dire, après toutes les hausses, s'il pouvait y avoir une petite baisse, ça fera pas de mal. Merci Mathieu, en tout cas, comme lui, vous nous appelez. Mathieu qui était à Lille, il est 7h38.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 7h42. Et si c'était enfin le début de la fin de la guerre en Ukraine? Bonjour Bruno Tertrais. Vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique, auteur de La Guerre des Mondes, le retour de la géopolitique et le choc des empires. C'est aux éditions Alpha. Donald Trump, cette nuit, s'est dit optimiste sur un accord Russie-Ukraine. Et vous, Bruno Tertrais?
Non, je ne le suis pas. Mais il est normal que Donald Trump se dise optimiste. Il est normal qu'Emmanuel Macron dise qu'il y a une petite chance, que c'est le jeu, c'est la diplomatie. Et puis, il ne faut pas désespérer non plus les opinions. Mais je ne crois pas du tout que la Russie, parce que c'est de là que le problème va venir, puisse accepter le nouveau texte qui est mis sur la table par les Américains en prenant compte les idées, les lignes rouges des Ukrainiens et des Européens.
Alors, ça veut dire que ces négociations, c'est du bluff, encore une fois?
C'est pas forcément du bluff, non. Je crois que d'abord, l'administration Trump, après Gaza, voulait vraiment faire le coup, entre guillemets, de l'Ukraine. Ça n'est pas totalement du bluff. Et puis, ça permet aussi aux Ukrainiens de montrer que eux, ils sont toujours prêts à négocier. Ça permet aux Européens de montrer qu'ils ne veulent pas bloquer les initiatives de l'administration Trump. Et puis, c'est vrai qu'il y a une petite chance, une toute petite chance, pour que ça débouche sur un processus qui sera long. C'est certainement pas pour les jours qui viennent, mais qui à un moment coïncidera avec une situation sur le champ de bataille qui est le moment où à la fois Russie et Ukraine voudront négocier. En même temps, on n'y est pas.
Sauf qu'on n'y est pas sur le champ de bataille, ouais. Sur le front, ça continue à bombarder, il y a chaque jour des morts.
Ben évidemment, parce que la manière de négocier de la Russie, c'est deux choses. D'abord, c'est ce qui est à toi, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est négociable. Première chose. Deuxième chose, c'est pendant la négociation, les bombardements continuent. Or, c'est justement là que le bât blesse, parce que les Ukrainiens et les Européens ont toujours dit, attendez, pour pouvoir négocier correctement, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. On ne négocie pas sous les bombes, sinon ça n'a pas de sens. Et la Russie a toujours refusé ce cessez-le-feu. Et donc, on peut dire que en théorie, on pourrait avoir soit un cessez-le-feu, soit un accord de paix. Mais de toute façon, si on veut un accord de paix,
il faudra commencer
un cessez-le-feu. Et évidemment, or, la Russie n'en veut pas.
L'Ukraine est en faiblesse.
Oui, mais la Russie aussi. Si vous voulez, à force de dire que l'Ukraine est en difficulté, on oublie que la Russie commence elle-même à souffrir, notamment du fait des frappes ukrainiennes sur son complexe de production et de distribution de pétrole et de gaz. Les difficultés russes se voient moins, mais elles sont réelles. Simplement, tout l'art du Kremlin, dans la grande tradition du KGB, c'est de persuader l'opinion occidentale que les Ukrainiens sont faibles et qu'ils demandent, il suffit de pousser un petit peu pour qu'ils fassent la paix. Mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a des difficultés militaires sur le terrain, c'est pas parce qu'il y a un scandale de corruption réel dans l'entourage de Zelensky que la population ukrainienne est prête à crier grâce.
Vous dites, Bruno Tertrais, que même la Russie finit quand même par être touchée. Mais dans le même temps, on a toutes les opinions publiques ou les dirigeants européens, je pense notamment au ministre de la Défense allemand, qui dit ils sont en train de reconstruire leur arsenal. Voilà. Ils seront même peut-être prêts dès cette année avec l'objectif d'aller plus loin et peut-être même de toucher la Pologne ou nos frontières.
En fait, les deux sont vrais en même temps. Pourquoi ? Parce que Vladimir Poutine, depuis 2022, a transformé son pays en une gigantesque machine de guerre. Toute l'économie est dirigée vers la guerre. Alors c'est vrai que ça souffre, mais c'est vrai en même temps que, si vous voulez, c'est comme un train qui est parti et qu'on peut presque plus arrêter. Donc la reconstruction de l'arsenal militaire, la modernisation, tout ça, ça se fait. Et en même temps, derrière, l'économie du gaz et du pétrole, qui est le fondement quand même de l'économie russe, commence à souffrir. Donc, si vous voulez, dans le temps court, dans les années qui viennent, la Russie peut continuer à avancer militairement. Elle pourrait même, si elle le souhaitait, je ne sais pas si c'est le cas, à un moment, eh bien faire une petite attaque militaire ouverte contre un pays de l'OTAN pour nous provoquer. Elle perdrait. Elle sait qu'elle perdrait, mais elle essaierait de le transformer en victoire politique. Donc, si vous voulez, les deux sont vrais en même temps. On a du mal à croire quand même que la machine militaire russe ne s'essouffle pas à un moment du fait de l'essoufflement de la machine économique, mais d'ici quelques années, malheureusement, c'est pas pour maintenant. Donc, tout ça peut être vrai en même temps.
On apprend par la presse américaine, et c'est assez savoureux, j'allais dire, que le propre émissaire de Donald Trump donne en quelque sorte en coulisses des conseils aux Russes sur la manière de gérer le Trump. Alors, au fond, voilà comment il fonctionne. Si vous voulez obtenir un truc, voilà comment il faut lui parler.
C'est complètement hallucinant. Pardonnez-moi l'expression, mais je n'ai jamais vu ça. C'est quasiment de la haute trahison. En tout cas, si les démocrates avaient fait ça, je peux vous dire que les républicains diraient pendez-les haut et court. En fait, on comprend que, sans vraiment être surpris, on comprend que Steve Witkoff, l'émissaire américain, eh bien, il est complètement sous l'influence des Russes. En tout cas, il veut tellement faire plaisir à la fois à son président, bien sûr, et aux Russes, qu'il dit, bah, écoutez, donnez-moi quelques idées, je vais faire croire que ça vient de chez nous. Enfin, c'est quasiment la
trahison. Je vais faire croire que ça vient de chez nous. Sous-entendu, voilà, pour que ça passe avec Donald, voilà comment ça marche.
Quoi. Alors, l'art de la diplomatie, c'est aussi souvent de faire croire à l'autre que l'idée vient de chez lui. Mais simplement, là où on a quand même une manœuvre de manipulation digne du KGB, c'est que pourquoi est-ce que ces conversations sont sorties ? Un, parce que ça veut dire que les Russes les ont enregistrées, et deux, parce qu'ils ne sont pas contents, parce qu'ils voient que les Américains sont en train de rééquilibrer leur position sur le fameux plan, et c'est une manière de dire, c'est vraiment des manières de crime organisé, de mafia et de KGB en même temps. Et là, ils sont en train de dire aux Américains, vous regardez toutes les saletés qu'on peut faire si vous commencez à avoir des positions qui ne nous plaisent pas. Pour moi, c'est exactement les méthodes du KGB.
Bruno Tertrais, on l'a appris cette nuit, 4 personnes, dont 2 Français et une Franco-Russe, ont été mis en examen, soupçonnés d'espionnage économique et d'ingérence au profit de la Russie. Est-ce que c'est pas une façon de redécouvrir qu'au fond, on est déjà en quelque sorte en guerre, c'est-à-dire en quelque sorte la Russie, déjà d'une manière ou d'une autre, en s'infiltrant, en s'ingérant, oui, est en guerre avec nous.
Je crois qu'il faut faire très attention avec cette expression qui consiste à dire « nous sommes en guerre ». Pour la plupart des Français, « nous sommes en guerre », ça veut dire « c'est militaire, c'est la vraie guerre, c'est 39-45 ». Donc moi, je vais pas dire qu'on est en guerre, ou alors il faut avoir une définition de la guerre qui est tellement large que ça veut plus dire grand-chose.
Ils abîment.
Voilà, on est dans un affrontement avec la Russie qui s'affirme comme un adversaire de la France. Et tous les jours, on a effectivement des attaques non militaires de la Russie. Mais je préfère parler d'affrontement plutôt que de guerre, qui est quelque chose qu'il faut, à mon sens, réserver quand même à l'affrontement militaire proprement
dit. Et c'est parfaitement respectable, et j'allais dire même tout à votre honneur, justement, de le dire. Bruno Tertrais, une dernière question. On l'entend, demain, il a commencé à nous y préparer. Emmanuel Macron va annoncer le retour du service militaire, alors un service militaire volontaire. Est-ce que, effectivement, vous vous dites la France doit se préparer?
Oui, je crois qu'il faut se préparer, mais tranquillement. D'abord parce que nous ne sommes pas en première ligne. C'est les pays baltes, la Pologne et d'autres qui sont en première ligne. Il faut se préparer tout de même parce que il est normal que, pour dissuader la Russie, l'idée c'est de prévenir la guerre militaire, il faut pouvoir faire comprendre aux Russes que nous sommes forts, que nous sommes prêts à résister et que nous contribuerions à la défense de nos amis et de nos alliés très proches de la Pologne, de la République tchèque, de Roumanie et des pays baltes. Donc il faut pouvoir le dire, bien sûr, mais justement pour éviter que Vladimir Poutine soit tenté un jour de faire une opération contre un pays européen.
Merci Bruno Tertrais, directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique. Votre dernier livre, La Guerre des des mondes, retour de la géopolitique et du choc des empires aux éditions Alpha. Tout à l'heure, François Hollande sera mon invité à 8h30. Je lui poserai aussi évidemment cette question de l'engagement ou non de la France sur une éventuelle défense. 7h50 dans un instant, c'est la voix de droite sur RMC. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour Apolline.
Louis, le candidat écolo à la mairie de Paris veut interdire les SUV en ville. Je crois que vous avez une contre-proposition, Louis.
Chacun sa proposition absurde. Moi, je propose d'interdire les David Béliard des grandes villes. Dieu sait que ça nous libérait de la place.
À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, Louis Sarkozy, qui veut interdire d'interdire. Mais d'abord le bonus, Mathieu, Julien Doré, qui annonce une tournée américaine. Coco Caline.
Il sort sur le triomphe de sa tournée française. Plus d'un million de spectateurs en cumulé et un album de reprises rigolotes qui cartonne. Tout part d'un pari. Julien Doré a dit il y a quelques semaines, j'avais annoncé si je fais complet à Boulazac en Dordogne, je lance une tournée aux États-Unis. On m'avait répondu que de la gueule. Et ben voilà quoi, il a été complet à Boulazac. Alors il part pour 7 concerts, le Canada, Montréal, puis Washington, New York, Miami, Los Angeles. Il appelle ça la tournée Juju en Amérique. Il offre un look cowboy, Santiago, veste en cuir. Et il lance un appel à Taylor Swift. Coucou ma Taylor, je passe une tête en avril-mai par chez toi si tu veux passer voir le show. C'est écrit avec l'accent Frenchie. He's gonna be great, dit-il. J'ai hâte de voir ce duo.
RMC, Apolline Matin.
Voix de gauche.
Voix de droite.
C'est mercredi et c'est la voix de droite sur RMC. Bonjour Louis Sarkozy.
Bonjour
Louis,
Apolline.
Interdire le stationnement des SUV à Paris, c'est la proposition de l'adjoint au transport d'Anne Hidalgo, candidat écolo dans la capitale, David Béliard. Il dit que les SUV n'ont rien à faire, je cite, dans les grandes villes. Et ça vous fait bondir, Louis.
Effectivement, David Béliard veut interdire les SUV dans les grandes villes. Moi, je propose d'interdire les David Béliard des grandes villes. Dieu sait que ça nous libérait de la place aussi pour la circulation. Mieux encore, puisque je ne peux pas interdire toutes les idées bêtes, je veux interdire l'interdiction. Ras-le-bol de ces pseudo-autoritaires et de leur hypocrisie au bout d'un moment. Rien que cette année, on a parlé d'interdire les cigarettes, les voitures thermiques, les pailles en plastique et maintenant les SUV. C'est leur passe-temps préféré bannir. C'est des verts rouges maoïstes de la culpabilisation, des stalinistes de pacotille qui substituent au moins le ridicule à l'horreur.
Ça veut dire que finalement, vous vous retrouvez presque le héros de mai 68. Vous voulez interdire d'interdire, Louis. Alors, très bien, mais si on va au bout...
Bah effectivement, très bien, allons au bout de sa proposition. On va interdire les Renault Captur, donc les Peugeot 3008, toutes les voitures familiales, parce qu'il faut rappeler qu'elles sont parmi les modèles les plus vendus en France. Sympa pour l'industrie automobile et pour les dizaines de milliers de personnes qu'elle fait d'ailleurs vivre. Et puis les familles apprécieront de gérer quatre enfants dans une Clio. Voilà exactement ce qui nous manquait, une politique qui effraie encore un peu plus les parents. Ça va sûrement aider notre démographie qui dégringole. On ne peut quand même pas se plaindre à la fin, à longueur d'année, de la déindustrialisation et dans le même temps, rêver d'un pays où seules les trottinettes pliantes ont le droit de rouler sur nos rues.
Ça veut dire que pour vous, Louis, en fait, cette interdiction, cette guerre de la face à la voiture, ça n'a pas de sens.
Absolument aucun. C'est devenu même une obsession idéologique. La ville serait réservée à un idéal. Les cyclistes qui mangent du kale et font du yoga et pédalent dans un silence absolument sanctuaire. On ne vit pas à la fin dans un centre de méditation. On vit dans des villes réelles où des gens travaillent, élèvent des enfants, transportent des courses et parfois, oui, utilisent une voiture. Si nos amis écolos n'aiment pas ça, il y a toujours la paisible ruralité de la Corée du Nord.
Oui, enfin, il y a quand même un problème d'écologie, Louis.
Bah, bien sûr que oui, mais la France n'est pas le Far West de la pollution, Madame de Malherbe. Nous sommes l'un des pays qui pollue le moins au monde parmi les économies avancées. Et pendant que certains rêvent d'interdire les SUV sur un trottoir, la Chine construit environ 2 nouvelles centrales électriques à charbon par semaine. C'est de l'autoflagellation et du clientélisme électoral. De premier abord, on se bat contre un moustique pendant que le reste du monde affronte un éléphant.
Les villes doivent bien réduire la place des voitures, non ?
Bah certainement pas en humiliant ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'habiter à 800 mètres de leur bureau, ni en forçant les Français à acheter des voitures électriques à 60 000 euros, ni en punissant les familles, les infirmières de nuit, les artisans, et encore moins en leur expliquant qu'ils doivent vivre comme un blogueur vegan de 23 ans.
Donc pas d'interdiction, on laisse les SUV proliférer.
On les laisse proliférer, la liberté d'aller et venir, ça compte, Apolline, et la voiture, qu'on la veuille ou non, reste un vrai outil de liberté dans les grandes villes si les Français aiment les SUV. Tant mieux, et puis je ne sais pas pour vous, mais rien au monde ne me donne plus envie de faire quelque chose que quand on menace de me l'interdire. C'est toujours la même tentation chez eux qui pensent savoir, mieux que tout le monde, comment les autres devraient vivre.
C'est quand même extraordinaire cette époque qui a changé. Vous, Louis Sarkozy, on ne peut pas franchement vous soupçonner d'être de gauche et pourtant vous avez les mêmes slogans que mai 68. Merci beaucoup, Louis. Louis, la voix de droite sur RMC les lundis, les mercredis. Demain, ce sera la voix de gauche. Cécile Duflot à votre place. Dans un instant, le journal de 8h. 4 personnes, dont 2 Français et une Franco-Russe, mis en examen, soupçonnés d'être des espions à la solde de la Russie. Tous les détails dès le début de ce journal. Du côté de la météo, attention, il fait froid. Et puis, juste après le journal, il y aura Emmanuel Le Chypre avec nous. Les supermarchés Auchan vont bientôt disparaître. Il nous le dit dans un instant. Il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Excellente journée à tous. Merci d'avoir choisi RMC Radio, RMC Story Télé. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. À la une ce matin, le calendrier judiciaire de Nicolas Sarkozy. L'ancien président risque une nouvelle condamnation de prison. Réponse aujourd'hui de la Cour de cassation. Vous verrez que cette fois, on parle de l'affaire Big Malion. Le casse du Louvre aurait-il pu être évité? Un audit alerté dès 2018 sur la vulnérabilité du balcon par lequel sont passés les malfrats. Et une nouvelle affaire d'ingérence russe. 4 espions, les espions présumés, mis en examen hier soir à Paris.
À peine sorti de prison, Nicolas Sarkozy est sous le coup d'une deuxième condamnation de prison définitive.
Ce serait effectivement la deuxième, lui qui a déjà été condamné définitivement dans l'affaire dite des écoutes. Guillaume Bier, chef du service pour les justices à RMC. Cette fois, c'est la Cour de cassation qui va rendre dans l'après-midi sa décision dans l'affaire Big Malion. L'affaire du financement présumé illégal de sa campagne présidentielle de 2012, déjà condamnée en première instance, puis en appel. On va savoir cet après-midi si cette peine est définitive.
Oui, une peine d'un an de prison, dont 6 mois avec sursis pour financement illégal de sa campagne 2012. Plus de 42 millions d'euros de dépenses, soit près de 2 fois le plafond autorisé. Un énorme dépassement payé par l'UMP à l'époque à travers des conventions fictives. Nicolas Sarkozy lui a toujours contesté toute responsabilité dans cette explosion de ses dépenses de campagne. Mais tout à l'heure, la Cour de cassation, comme toujours, ne se prononcera pas sur le fond de l'affaire. Elle dira si le droit a bien été respecté lors de la condamnation en appel. Si tel est le cas, eh bien l'ancien président ne retournera pas en prison, sa peine sera automatiquement aménagée, par exemple sous bracelet électronique à domicile, dont il pourra demander rapidement la levée puisqu'il a désormais plus de 70 ans.
Le casse du Louvre, le mois dernier, aurait-il pu être évité? Eh bien, la réponse est oui. Maintenant que le 4e suspect du commando a été arrêté, le journal Le Monde révèle, Pierre Bazin pour RMC, qu'un audit alerté dès 2018 sur la vulnérabilité donc du balcon par lequel sont passés les malfrats.
Oui, dans ce rapport commandé en 2018 aux experts de Van Cleef & Arpels, que nos confrères du Monde ont pu consulter, les auteurs mentionnent très précisément que le balcon utilisé par les cambrioleurs il y a un mois est un point de vulnérabilité du musée. Ils vont même jusqu'à préciser que l'utilisation d'un monte-charge faciliterait l'accès au balcon et l'entrée dans le Louvre. En 2018, les auteurs du rapport détaillaient donc précisément sur 2 pages le scénario qui allait être utilisé 7 ans plus tard par les cambrioleurs. Il est même précisé que la zone exploitée par les voleurs est l'une des plus vulnérables, notamment parce qu'elle n'est pas totalement couverte par les caméras de sécurité. Un rapport qui interpelle donc et que l'actuelle direction du Louvre n'aurait découvert qu'après le vol des bijoux.
Il y a cette nouvelle affaire d'ingérence russe à Paris. Pourquoi? Parce que 4 personnes ont été mises en examen et 3 d'entre elles viennent d'ailleurs de passer une première nuit en prison. Romain Houk pour RMC, pourquoi? Pour des soupçons d'ingérence et d'espionnage au profit de Moscou.
Oui, l'une de ces personnes est un Russe de 40 ans filmé par des caméras de vidéosurveillance en train de coller des affiches à la gloire de la Russie sur l'Arc de Triomphe. C'était début septembre, un acte qui va mettre en lumière auprès des enquêteurs toute une nébuleuse pro-russe soupçonnée d'espionnage, car l'homme aux affiches va, juste après les avoir collées, en rendre compte à Anna Novikova, franco-russe originaire de Sibérie. Elle vit à Pau. Elle est dans le viseur des services de renseignement depuis au moins le début de l'année. Pourquoi? Eh bien, cette femme est la fondatrice de SOS Donbass, une association présentée comme une organisation d'aide humanitaire qui collecte des fonds pour aider cette région de l'est de l'Ukraine, ravagée par la guerre, mais qui serait en fait, selon les renseignements, une couverture à ses activités d'espionnage. Anna Novikova aurait approché des cadres d'entreprises françaises pour obtenir des renseignements économiques susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la nation. C'est l'objet d'une enquête préliminaire ouverte ouverte il y a plusieurs mois. Deux autres membres de cette association ont été mis en examen dans cette énième affaire de possible ingérence russe.
Concernant le sort de la guerre en Ukraine, le Kremlin confirme ce matin la visite prévue la semaine prochaine à Moscou de l'émissaire américain qui a rédigé le plan de paix, sera peut-être même en compagnie du gendre de Donald Trump, gendre qui avait négocié le cessez-le-feu à Gaza. Une des informations de la nuit, c'est le géant de l'informatique HP qui annonce la suppression de 4 à 6 000 emplois dans les prochaines années partout dans le monde, des employés qui seront remplacés par l'intelligence artificielle. C'est la première fois qu'une aussi grande entreprise fait publiquement le lien entre réduction du personnel et intelligence artificielle. L'inquiétude à nouveau d'ailleurs des salariés d'Auchan. Un an seulement après le plan social qui les a déjà concernés, eh bien le distributeur en difficulté à la tête d'Auchan annonce son projet de changement de bannière. Près de 300 supermarchés qui viendraient des Intermarchés ou des Netto. Plus de 11 000 salariés sont concernés.
Et puis c'est la drogue facile d'accès, celle qu'on trouve dans les rayons de supermarchés. RMC a enquêté sur les ravages et la prise en charge des consommateurs du protoxyde d'azote.
Oui, surnommé bien souvent le gaz hilarant. Inès Zegloul, c'est vous qui avez enquêté pour RMC sur les séquelles laissées sur la santé de ceux qui en consomment. Vous vous êtes rendu pour ça dans une clinique de rééducation de Mantes-la-Jolie, c'est près de Paris. Clinique qui s'occupe justement eh bien, de ces consommateurs.
Oui, des consommateurs tous pris en charge par l'unité de rééducation neurologique au programme tapis roulant, escalier, exercice de mobilité, d'équilibre. Certains sont hospitalisés nuit et jour pendant des mois. Au deuxième étage de l'établissement, j'y ai par exemple rencontré un jeune homme, 22 ans seulement. Pendant 3-4 ans, il a consommé en moyenne 4 bonbottes de protoxyde de la taille d'une gourde par jour.
À ce moment-là, c'était juste pour s'amuser, quoi. J'ai commencé à ressentir des douleurs dans les jambes. Ça arrivait aux mains, au cerveau, au dos, la moelle épinière, des problèmes de mémoire, paranoïa. Je faisais du foot, mais depuis que j'ai ça, j'ai pas essayé d'en refaire, quoi. Parce que je sais très bien que je vais pas réussir à taper dans le ballon. Depuis que j'ai ça, quand même, j'ai perdu, on va dire, 2 ou 3 ans.
De ta vie.
De ma vie. Je me dis pourquoi j'ai pris ça, en fait. Faire bousiller la santé, en fait.
Et ces jeunes sont de plus en plus nombreux à séjourner dans l'établissement avec des séquelles similaires.
Oui, ils ont en moyenne 18 à 25 ans, mais il y a de plus en plus d'ados de 15 à 16 ans, constate la direction de la clinique. C'est une déferlante, me confie le docteur Khaled, spécialiste en charge de l'unité.
On constate tous, de Marseille à Lille, tous les hôpitaux sont touchés par l'accélération de ce phénomène. Et donc, relativement à ce que je voyais moi-même en 2017, c'est un cas par an, un seul cas par an. À passer à 5, 6 cas, 10 cas parfois par an, c'est une différence énorme.
Et c'est pourquoi il appelle les pouvoirs publics à faire de la prévention dans les établissements scolaires, à agir plus sévèrement. L'interdiction de vente aux mineurs ne suffit plus, dit-il. Il faut interdire totalement la vente de protoxyde.
C'était le choix de la rédaction signée Inès Zegloul ce matin sur RMC. Il y a de l'euphorie depuis hier soir à Marseille qui s'est complètement relancée en football en Ligue des Champions en battant Newcastle de 2-1 grâce à un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang. On a vécu ça sur RMC. On vous retrouve d'ailleurs en direct de Marseille. Jean-Louis Tour, rédacteur en chef foot à RMC. Vous avez commenté le match et vous nous dites que c'est une victoire qui change tout.
Ah oui, elle change tout au classement d'abord. Avec 6 points à 3 matchs de la fin, l'OM peut désormais croire légitimement à une qualification en barrage. Mais cette victoire d'hier change tout, surtout dans les têtes. Car le doute qui pouvait s'emparer des têtes marseillaises pendant la première période s'est dissipé. Ils ont bien le niveau de la Ligue des Champions. Après 2 défaites contre des adversaires abordables, les joueurs devaient une revanche au public du Vélodrome. Mission accomplie grâce à une grosse force mentale symbolisée par les cadres comme Pierre-Emerick Aubameyang. Même après des occasions ratées, l'attaquant n'a pas sombré. Il a mis doublé qui restera dans les mémoires de supporters. Il faudra maintenant afficher le même visage en Belgique contre l'Entente Saint-Gilloise lors de la prochaine journée pour rendre un peu plus concret cet avenir européen.
À 21h, on verra ça d'ailleurs sur RMC. C'est Paris qui jouera contre Tottenham pour la 500e du capitaine brésilien Marquinhos. Et avant ça, à 18h45, Monaco jouera chez les Chypriotes de Paphos. Une des curiosités cette saison de la Ligue des Champions.
C'était le journal de Quentin Vinet. 8h08, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Le Chypre.
Bonjour
Emmanuel,
à tous.
Les grandes manœuvres continuent. Auchan. Auchan va céder la quasi-totalité de ses magasins à la maison mère d'Intermarché.
Alors, il y a encore quelques étapes à franchir, hein, comme les discussions avec les représentants du personnel et le feu vert des autorités de la concurrence. Mais sauf coup de théâtre, d'ici la fin 2026, 261 supermarchés Auchan vont passer sous bannière Intermarché ou Netto, soit tous les supermarchés Auchan, sauf ceux de Corse et la trentaine déjà franchisés. Alors attention, hein, on parle bien des supermarchés qui sont les moyennes grandes surfaces, on est entre 400 et 2500 mètres carrés, on ne parle pas des hypermarchés. Et ça n'est pas un rachat. En fait, l'enseigne et les produits dans le magasin seront Intermarché ou Netto, mais les salariés resteront affiliés à Auchan et le chiffre d'affaires ira aussi dans les caisses d'Auchan. C'est à peu plus de 3 milliards d'euros aujourd'hui.
Et nous, quand on fait nos courses, on aura quelque chose à y gagner ?
Alors, nous, ce qu'on va avoir à y gagner, c'est des prix plus bas. Parce que aujourd'hui, il faut savoir que quand vous faites le comparatif de prix, l'enseigne la moins chère, c'est Leclerc. Les supermarchés d'Intermarché, donc des mousquetaires, c'est 5 à 6 % plus cher. Si vous prenez les supermarchés Auchan, ils sont quasiment 15 % plus chers. C'est de loin les plus élevés aujourd'hui. Donc si vous imaginez que vous basculez en prix Intermarché, ça veut dire que vous pouvez espérer, quand vous alliez par exemple dans un supermarché Auchan, si ça bascule Intermarché, bah vous pourrez trouver des prix qui sont 6 à 8% plus bas.
Ça c'est pour nous.
Oui.
Et si on se met maintenant à la place d'Auchan et d'Intermarché, est-ce que eux, ils ont quelque chose à y gagner ?
Alors, Auchan estime que ces supermarchés seront plus performants grâce à Intermarché, parce que Intermarché a le vent en poupe, que ses produits sont moins chers, et donc que la clientèle va revenir. Et du coup, Auchan se dit, bah chouette, je vais pouvoir me concentrer sur mon plus gros défi qui est de remettre en selle mes hypermarchés. Et puis, le grand gagnant, c'est encore une fois les mousquetaires. Hein. Avec cette opération, ils vont approcher les 20% de part de marché, talonner Carrefour et puis se renforcer sur le créneau des supermarchés qui est aujourd'hui le créneau qui est le plus porteur par rapport à quand même des hypermarchés qui sont en difficulté. C'est ce qui fait la fragilité de Leclerc aussi. Hein. Leclerc, ils sont très très forts sur les hypermarchés, mais c'est plus le modèle qui a le vent en poupe aujourd'hui.
Merci Emmanuel Lechypre.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint. Et puis à 8h30, menace russe, retour du service militaire. François Hollande sera mon invité. Mais je lui demanderai quand même si d'un côté il faut se préparer à la guerre et si de l'autre, franchement, on peut continuer à se payer le luxe de ce spectacle affligeant sur le budget. Et puis juste après François Hollande, vous retrouverez Nicolas Canteloup comme chaque jour à 8h50. À suivre donc, il est 8h11.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud Demanche qui nous rejoint, il est 8h13.
Et oui, bonjour. Ah, bonjour. Je suis un peu votre protoxyde d'azote du matin. Oh. On va rigoler.
Ouais.
Tiens, Apolline.
En moins dangereux.
Est-ce que vous...
En moins dangereux.
En moins dangereux, ouais. Très bon pour la santé. Apolline, est-ce que vous voulez voyager ce matin ? J'ai envie de vous offrir un beau voyage.
Bien sûr.
Je vous emmène assister à une campagne électorale locale en Namibie,
ah,
où le grand favori pour les élections du jour s'appelle Adolf Hitler Unona.
Mais non.
Si. Rien à voir, évidemment,
non,
rien à voir
sûr,
avec Jean-Michel Unona, qui est mon charcutier, des fois on confond, le nom prête à confusion. Donc là, c'est Adolf Hitler Unona, il s'appelle donc comme l'inventeur des marchés de Noël, c'est
ouais.
Arthur Chevalier qui expliquait ça tout à l'heure.
Référence à la très belle chronique d'Arthur.
Très belle chronique d'Arthur et ancien dictateur nazi. Le vrai Adolf Hitler doit être tellement fier qu'un noir africain porte son nom. Alors, en vrai, c'est pas son vrai nom, c'est Stéphane Plaza Unona, mais il a préféré changer pour pas être associé au bad buzz. Alors, Adolf Hitler Unona a expliqué « Je comprends pas très bien pourquoi mon père m'a appelé comme ça. Il a pas dû bien comprendre ce que représentait Hitler. » Ça veut dire qu'on peut entendre parler d'Hitler
vaguement,
sans bien comprendre ce que ça représente. Vaguement, ouais, vaguement. Non, mais c'est plus le peintre, en fait. Il faut dissocier l'homme de l'artiste au bout d'un moment. Donc, on souhaite une bonne et belle grande carrière politique à Adolf Hitler. Peut-être président de la Namibie un jour. Ce serait formidable, son premier voyage diplomatique en Israël. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Le douanier, il va halluciner. Bref, sans transition. Alors, désolé, sans transition, mais c'est l'actu. Selon un sondage, Jordan Bardella gagnerait la présidentielle de 2027 dans tous les cas de figure. C'est un bon candidat, Jordan Bardella. Un bon président, mais un bon candidat, ça c'est certain. Vous savez qu'on est tellement désespérés dans ce pays qu'on se dit, tiens, un type de 28 ans qui n'a pas fait d'études et qui n'a aucune expérience professionnelle, et si c'était ça la solution ? La France est une cougar en fait. Elle est prête à se jeter, elle est prête à se jeter dans les bras d'un prof de body pump parce que tous les mecs, ça ne lui fait pas envie. Donc Éric Zemmour, il s'est mis à la muscu tout de suite. Il a fait, ok, bah très bien, si c'est ça que veulent les Français, on va leur donner. Elle est où mon halter de 2 kilos pour le développer couché ? Allez hop, c'est parti. Oh merde, mon thorax. Et Marine Le Pen a très bien pris ce sondage puisqu'elle est allée voir Jordan Bardella et elle lui a jeté la litière du chat dans la gueule. Petit con ! Quatre tentatives et voilà, sondage de merde ! Allez Marine, tu te consoleras avec Matignon, c'est bien aussi.
Arnaud, quatre nouvelles personnes suspectées d'avoir participé au braquage du Louvre ont été arrêtées.
Oui, mais on n'a toujours pas de nouvelles des bijoux. Non. Voilà. Et par contre, la présidente du Louvre a annoncé 20 nouvelles mesures pour mieux sécuriser le musée. Alors, première mesure, fermer à clé. C'est vrai, c'est bien. C'est vrai, c'est pas mal. C'est deuxième mesure, ne pas mettre la clé sous le paillasson. Troisième mesure, des travaux. Vous avez vu, il y a une autre galerie qui a été fermée. Alors ça, c'est à cause de la vétusté du plancher des bureaux occupés par les salariés. Alors, heureusement, c'est des fonctionnaires, ils vont pas au bureau. Mais imaginez... Imaginez un dingue, pris d'un coup de folie un matin, tiens, j'irai bien bosser ce matin. Et là, alors l'architecte en chef du musée a déclaré, c'est bon, ça va pas s'effondrer. Et c'est rassurant, je trouve, qu'ils le disent comme ça, qu'ils soient là, oh ça va, si on marche pas bêtement dessus, ça risque rien. Par contre, il y a une mouche qui se pose, alors là, la moitié du Louvre sous la Seine, elle aura de la gueule, le radeau de la Méduse, comme ça. La galerie fermée en question, c'est la galerie Campana. La galerie Campana qui abrite une collection de céramiques de la Grèce antique. Bon, c'est pas la plus visitée. Celle-là, ils peuvent carrément laisser les fenêtres ouvertes parce que l'assiette à soupe de Platon ou le compas en terre cuite de Pythagore ou le plateau à fromage d'Alain Duhamel.
Oh non,
tu risques...
Oh non.
Tu risques pas de te les faire voler tout de suite, quoi. À part un prof d'histoire expert de la céramique au Péloponnèse en moins 5000.
C'est dur à dire Péloponnèse.
Ouais, c'est pas évident. Je suis fatigué. Mais il y en a qu'un en France de gars comme ça. Donc l'enquête sera vite bouclée. Bref, en termes de sécurité, ça laisse vraiment à désirer là-bas. Est-ce que vous avez vu, c'était quand même génial, les deux Belges qui ont accroché leur portrait dans la salle de la Joconde. Il y a deux TikTokers belges qui sont venus, ils ont rajouté un tableau. Deux Belges qui aiment se foutre de notre gueule. J'ai une piste. Je pense qu'Emmanuel Macron va recevoir un coup de fil dans pas longtemps. Allô Emmanuel, devine donc qui c'est.
Bonjour Emmanuel, c'est le roi Philippe et la reine Mathilde.
Bonjour, j'avais reconnu. Excusez-moi, je suis en double appel avec Zelensky pour savoir s'il veut toujours mes rafales parce que malheureusement la paix s'approche. Oh, tu me feras toujours rire. Toi, tu vends tes avions à quelqu'un qui n'a pas d'argent. Tu sais à qui tu me fais penser? Oh, la dame qui a cru épouser Brad Pitt là. T'es un rigolo, dis donc. Hey, Emmanuel, t'as vu quand t'avais fait une blague? On t'a rajouté un tableau dans ton musée pourri. Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce que ça nous a fait rigoler. Et tu sais que c'est pas la première fois que je te fais le coup, hein. Quand je suis venu l'année dernière, tu sais, quand on s'est rencontrés avec Bobonne, tu nous as fait visiter le centre Pompidou avec tes œuvres bizarres de bananes scotchées au mur et je ne sais quoi. Et à côté de l'urinoir de Duchamp, en fait, j'avais dessiné un zizi avec un feutre que j'avais appelé Portrait de Brigitte. J'ai rigolé.
Oh, Philippe, arrête de colporter cette rumeur ridicule. Ça suffit maintenant. Et tu sais quoi, Emmanuel? Il y est encore, hein? J'ai regardé, c'est coté à 300 000 balles, le machin.
Pauvre Emmanuel. Allez, à demain.
À demain, Arnaud de Manche. Il est 8h19, on se retrouve dans un instant. Mon auditeur, j'allais dire François Hollande, mais vous n'êtes pas François Hollande, Tristan. Bonjour, Tristan.
Bonjour,
Tristan, est-ce que
bonjour,
vous m'entendez? Bonjour, Tristan. Tristan qui est en... En Essonne, vous êtes expert pour une compagnie d'assurance. Vous vouliez réagir à ces interdictions des SUV en ville.
Ouais, tout à fait. Bonjour Apolline, bonjour toute l'équipe. Non, ça me fait doucement rigoler puisque en fait j'ai écouté David Belliard ce matin qui expliquait que un choc suite à un SUV augmentait de 44% les chances de décès. Sauf que là, il n'interdit pas la circulation, il interdit le stationnement. Donc ça change en rien cette statistique. Donc
c'est le moment du garage. C'est le moment où on se gare. On aurait le droit en effet de rouler, mais pas de se garer.
Voilà, mais bon, moi après, voilà, j'ai pour à titre personnel, j'ai un véhicule de fonction qui m'est donné par mon employeur, qui est un véhicule électrique. J'ai pas trop le choix. C'est une marque française. J'ai le choix. C'est des numéros, hein, 3008 ou 5008. Donc c'est des SUV. Je tourne dans Paris. Qu'est-ce que je fais si je vais faire mon travail dans Paris? Où est-ce que je me gare? J'ai pas des parkings souterrains à proximité. Donc voilà
c'est ce qu'il vous dit. Il faudrait vous garer dans un parking souterrain, mais pas le droit de se garer en ville.
dans la rue.
Mais moi, les trois quarts du temps, je me garde dans la rue, là où il y a des bornes.
Je vous avoue que je trouve cette histoire de plus en plus complexe, effectivement, sur la question d'ailleurs si l'argument c'est vraiment la dangerosité quand on se gare. Je trouve par exemple les voitures électriques, le fait de pas les entendre. Pour moi, ça, c'est un vrai souci et une inquiétude, y compris pour les enfants dans la rue, par exemple. Donc, si on commence à réfléchir à ce genre de choses, il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup, Tristan, en tout cas. Tristan, qui n'était pas François Hollande, donc, mais dans un instant, mon invité, en effet, ce sera François Hollande, l'ancien président de la République. Je l'interroge sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Hollande.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous êtes bien sûr l'ancien président de la République et vous êtes aujourd'hui député socialiste. Est-ce qu'il est possible que nous ayons passé notre dernier été en paix ?
Oui, en paix, au sens où il n'y aura pas la guerre sur le continent européen l'été prochain.
Si je vous pose cette question, oui. C'est parce que l'expression, elle a été utilisée par le ministre de la Défense allemand. Voilà les mots qu'il a utilisés. Il a dit « Les experts militaires et les services de renseignement peuvent estimer approximativement à quelle date la Russie aura reconstitué ses forces armées au point d'être capable de lancer une attaque contre un membre de l'OTAN ». Certes, nous avions affirmé que cela ne se produirait qu'à partir de 2029, mais cependant, ajoute-t-il, certains estiment désormais que c'est envisageable dès 2028 et même que nous avons déjà connu notre dernier été de paix.
Oui, on peut avoir des propos. Ce qui compte, c'est des actes. Si l'on veut éviter ces scénarios qui sont effectivement épouvantables, l'idée de la guerre par rapport à des générations qui n'ont connu que la paix. Si on veut éviter ces scénarios, il faut agir tout de suite. C'est ça le sens de la politique, qu'on soit ministre allemand ou qu'on soit ministre ici en France ou responsable. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Là, il y a l'Ukraine. On pourrait considérer que l'Ukraine, c'est loin. Non, l'Ukraine, c'est à côté. Et si Vladimir Poutine obtient gain de cause sur l'Ukraine, c'est-à-dire, finalement, absorbe une partie de l'Ukraine, et n'y ait pas de garantie de sécurité donnée aux Ukrainiens, ça veut dire qu'il continuera. C'est en ce sens que la menace est sérieuse, c'est en ce sens qu'il y a un danger. Mais nous pouvons agir, nous pouvons empêcher Vladimir Poutine de continuer son offensive, d'imposer un cessez-le-feu et de donner des garanties de sécurité.
On va y revenir, mais sur le scénario comme vous dites, est-ce que ce scénario évoqué d'une guerre au fond dès l'année qui vient, c'est un scénario plausible, ou est-ce, en tout cas, est-ce un scénario qu'on doit prendre au sérieux ?
Il faut toujours prendre au sérieux toutes les menaces. Il y a menaces. Mais alors, je ne suis pas du tout dans l'idée qu'il faille affoler les Français, parce que ça fait partie précisément de la sidération que Vladimir Poutine veut mener. C'est-à-dire toujours essayer d'impressionner. Et donc, quand on impressionne, on fait peur. Et quand on fait peur, généralement, on se replie. C'est exactement ce qui se produit. Avec des propos comme ça, qui laissent entendre que la guerre serait là, quelle est la réaction ? J'épargne autant qu'il est possible, je vais bientôt stocker des marchandises, et puis je vais demander qu'on ferme les frontières le plus rapidement possible, et les courants pacifistes n'en seront qu'encourager. Eh bien, moi, je ne suis pas du tout sur cette vision-là et sur cette conception-là. Il faut être totalement lucide sur la question de Poutine et de la Russie. Je l'ai été en son temps. Il faut être totalement déterminé pour l'arrêter. Mais il faut en même temps se préparer à toutes les hypothèses. Mais il ne s'agit pas d'affoler les opinions publiques. C'est ce que cherche Vladimir Poutine.
Avouez que le chemin est un peu étroit. Et quand vous entendez les propos du chef d'état-major des armées ici en France, qui a dit qu'il fallait accepter l'idée de devoir perdre ses enfants, comment vous avez réagi ?
Le chef d'état-major, il est dans son rôle quand il évoque le danger, quand il fait une analyse sur ce que sont les capacités militaires de la Russie et qu'il y a aussi d'autres menaces. Il n'y a pas que la menace de la Russie, il y a la menace aussi de ce qui se passe en Afrique en ce moment avec un courant djihadiste qui peut prendre Bamako, je vous rappelle que ce que j'avais fait pour l'empêcher. Il y a aussi la stratégie chinoise qui est aujourd'hui offensive, pas sur notre continent, mais sur la mer de Chine, voire sur Taïwan. Il y a ce contexte stratégique. Ensuite, qu'il ait pu dire qu'il fallait que nos soldats soient préparés, Mais attention, il y a des formules, il y a des expressions. Les enfants sont pas les soldats. Ou plus exactement, les soldats peuvent être compris comme des enfants de la patrie. Mais là aussi, attention aux mots qui sont utilisés. Quand il s'agit de mobiliser les Français sur une dimension de défense, c'est légitime. Quand il s'agit de prendre un mot qui n'est pas forcément le bon dans le contexte, là, je pense qu'il peut y avoir des effets contraires.
Et
il y
a eu
des effets
contraires. Sur le choix du mot, vous auriez dit éventuellement nos soldats, mais pas nos enfants.
Bah, j'ai... Comme président de la République, vous avez rappelé ce qui a été ma responsabilité. J'ai envoyé des soldats combattre. Il y a eu des morts de soldats. Il y a eu des morts au Mali. Et avant, il y avait eu des morts, vous savez, en Afghanistan, même si j'ai mis fin à la présence des troupes françaises. Il y a eu des morts. Donc, à partir de là, nous savons qu'il y a toujours des opérations militaires qui peuvent engendrer, hélas, des tragédies. Mais les soldats s'engagent. C'est leur dignité d'ailleurs. Moi, j'ai toujours été extrêmement saisi par ce que me disaient les familles après la mort de soldats. C'était sa vocation, c'était sa volonté, c'était son engagement. Mais nous devons faire attention, être président de la République, c'est effectivement décider de l'envoi de soldats. Mais parler des enfants, pour beaucoup qui ont entendu ces propos, c'était le retour de la conscription, l'envoi de forces françaises dans un combat qui n'était pas nécessairement prévu. Donc c'est pour ça que ça a suscité, et certains ont exagéré et
quand
amplifié
vous dites
ces
certains,
propos.
On le sait bien. C'est quoi? C'est LFI et RN qui sûr, immédiatement ont réagi.
Comme ce sont des courants faussement pacifistes, ce sont des courants qui, en définitive, laissent la Russie ou laissent la Chine continuer leurs opérations. On doit être conscient quand même. Donc à partir de là, ils ont saisi...
Pour vous, ils sont pro-russes? Vous auriez jusqu'à dire que le LFI et RN sont des partis pro-russes?
Ils l'ont été avant l'intervention de la Russie en Ukraine. Enfin, faut se souvenir des liens qui existaient entre le Rassemblement National et le pouvoir russe, et de la sympathie que pouvait exprimer également LFI à l'égard de ce qu'était le comportement de la Russie. Ou plus exactement, ils sont anti-OTAN, anti-démocratie occidentale assurant leur propre défense. C'est ça le leur courant. Et c'est pour ça que c'est très important. Ce qui va se passer dans les prochains mois en France, c'est de savoir si nous sommes lucides sur les menaces qui sont autour de nous, sans tomber dans je ne sais quelle hystérie. Et deuxièmement, que nous soyons capables de savoir qui va être président de la République en 2027.
J'imagine donc que les deux sont parfaitement liés. Vous pensez bien qu'on va y venir. Mais lorsque vous avez dit le mot conscription, il y a cette annonce attendue du président Macron sur un retour du service militaire. Alors, sous une formule de service militaire volontaire. Y êtes-vous favorable?
Alors là, soyons précis. Il y a une armée professionnelle en France depuis 1995, l'annonce de Jacques Chirac qui a supprimé la conscription. La conscription, c'était l'obligation pour les jeunes hommes de faire leur service militaire. Dans ma génération, nous faisions le service militaire. L'armée est donc professionnelle. Elle présente 200 000 soldats qui sont capables de se projeter, qui sont pas capables, s'il y a une attaque, d'y répondre. Et puis, il y a ce qu'on appelle la réserve. La réserve, c'est 50 000 personnes qui peuvent être mobilisées, qui s'entraînent pour être mobilisées, le cas échéant. S'il faut proposer un service militaire volontaire de quelques milliers de personnes... Oui, ça peut encourager la réserve. C'est pas ces personnes-là, c'est pas ces volontaires-là qui seraient dans des opérations extérieures ou dans des opérations militaires compliquées et qui seraient par exemple présents en Pologne pour garantir la sécurité des...
Ça veut dire que notre défense ne doit pas reposer là-dessus.
Mais elle ne peut pas reposer là-dessus. Elle repose sur une armée de professionnels, d'ailleurs formés, entraînés, aguerris, et c'est ça le rôle de l'armée française aujourd'hui.
Mais vous soutiendrez cette proposition?
Oui, cette idée, elle vient s'ajouter à d'autres qui n'avaient pas marché, il faut bien le dire, le service national universel. Bon, on peut y ajouter une dimension civique aussi, hein. Et puis, j'étais très favorable, moi j'ai beaucoup poussé le service civique, mais pour l'instant, là,
enfin,
il s'agit d'une dimension militaire.
Enfin, c'est quand même du service militaire. Civique au SNU, et là, un service volontaire, oui, il ne vaut mieux pas que ça ait la même destinée.
Non, mais par exemple, pendant la période des attentats, il y a donc 10 ans, j'avais considérablement gonflé les réserves. C'est un peu le même processus. Il faut permettre à des personnes qui sont volontaires de pouvoir remplir un certain nombre de fonctions, de tâches, mais qui ne sont pas des tâches liées au combat.
Un mot sur l'Ukraine. Donald Trump, cette nuit, se dit optimiste sur une sortie du conflit Ukraine-Russie. Est-ce que vous partagez cet optimisme?
Non. Donald Trump, il est à la fois ambivalent. Il veut la paix, mais il est très favorable, pour ne pas dire davantage, à Vladimir Poutine par rapport à Zelensky, et il est versatile. Il fixe des ultimatums, puis il ne les respecte pas. Là, il envoie Monsieur Witkoff, c'est-à-dire son conseiller, qui est franchement, maintenant c'est connu, pro-russe. Donc la paix russe serait en définitive une fausse paix. Ce serait même la poursuite de la guerre.
François Hollande, comment on fait ? Parfois, je me demande si je n'ai pas deux hommes face à moi. Pour être à la fois ce François Hollande empreint de gravité, comme vous l'êtes à l'instant, qui est le François Hollande ancien président, et le François Hollande député sur les rangs de l'Assemblée, au milieu de ce qui ressemble, en tout cas aux yeux des Français, de plus en plus à un véritable théâtre. Comment on fait pour être les deux ?
Si je suis redevenu député, c'était pas par une décision comme ça liée à je ne sais quelle recherche d'avantages ou de statut. Je n'ai aucun besoin. Si je suis redevenu député, c'était pour éviter que l'extrême droite puisse être majoritaire l'année dernière. Eh bien, aujourd'hui, si je reste député, c'est pour faire prévaloir les intérêts du pays tout entier. C'est-à-dire, il doit y avoir un budget à la fin de l'année. Parce que la situation est grave. Comment pourrait-on justifier, alors que nous venons d'évoquer les menaces qui pèsent, que nous n'ayons pas d'augmentation de notre budget de la défense, que nos forces armées ne pourraient pas être entretenues, mais je parle aussi de l'éducation, de la santé. Nous avons besoin, non pas des mêmes dépenses que la dernière, nous avons besoin d'investissements.
Au moment où
donc,
on se parle, ça passe
pas. Donc, je fais en sorte, par ma parole dans les discussions qui peuvent avoir lieu, de faire prévaloir l'idée qu'il faut un compromis et qu'il faut un budget.
Sauf qu'au moment où on se parle, ça ne passe pas. Si ça doit passer, en tout cas par le vote, il est très vraisemblable au moment où on se parle que ce budget ne soit pas voté. Une question se pose, faut-il renoncer à se priver du 49-3 ?
Ben nous verrons bien. Pour l'instant, c'était le choix du Premier ministre, c'était aussi la demande
du Parti Socialiste.
Donc, il faut aller jusqu'au bout de cette logique. Est-ce qu'il est possible d'avoir un compromis par le vote, ce qui serait quand même mieux dans une assemblée, puisque c'est elle qui aura le dernier mot, que les uns et les autres, qui n'ont pas forcément ce qu'ils veulent, puissent trouver le compromis et voter et le budget de la sécurité sociale et le budget du pays. Si nous n'y parvenons pas, je serais tout à fait fâché, mais ça voudrait dire que soit c'est les ordonnances, c'est-à-dire on applique le budget mais dans sa forme initiale, il n'y aurait aucun progrès, soit la loi spéciale, je viens d'évoquer ce que serait une régression en définitive par rapport à nos objectifs, soit ça sera, si le Parti Socialiste considérait que c'était opportun et si le gouvernement y était prêt, il y aurait éventuellement cette formule. Mais c'est trop tôt pour le dire, parce que ça serait dire tout de suite qu'il n'y aura pas de compromis par le vote.
Mais ça veut quand même dire, François Hollande, que vous ne dites pas tout sauf le 49-3. Vous dites, si le réalisme nous oblige à le faire, il vaut mieux un 49-3 que pas de budget.
J'ai été président de la République, vous avez dit qu'il y avait deux personnes, il n'y en a qu'une, je vous le confirme encore. Moi, j'ai utilisé le 49-3, ça n'a pas été forcément populaire. Je l'ai utilisé, donc je ne vais pas récuser ce qui existe dans la Constitution et qui, à un moment, soit sert à forcer la majorité, ce qui n'était pas mon cas, soit, quand il n'y a pas de majorité, à de pouvoir en trouver une. Là, aujourd'hui, s'il devait être utilisé, si on devait solliciter cette procédure, c'est parce que toutes les autres n'auraient pas fonctionné.
Donc, il ne faut pas se priver.
Mais il ne faut jamais se priver d'une disposition constitutionnelle.
Enfin, sauf que là, on avait annoncé qu'on ne l'utiliserait pas.
Mais il est préférable de ne pas l'utiliser. C'est préférable. Et encore aujourd'hui, le Sénat n'a pas terminé son travail. La commission mixte paritaire ne s'est pas encore réunie. Il n'y a pas encore eu de deuxième lecture. Alors, je sais que c'est très compliqué pour les Français. Mais enfin, bon, le 15 ou 20 décembre, il y aura une décision à prendre.
Ce que je trouve très intéressant, François Hollande, c'est que, pour vous avoir suivi les uns et les autres, vous n'avez jamais dit à l'avance que le 49-3 était souhaitable. Donc, il est en effet parfaitement normal que vous ayez tous tout tenté pour éviter le 49-3. La petite différence, c'est que cette fois-ci, de manière très solennelle, le Parti Socialiste avait demandé qu'il n'y ait pas de 49-3. Le Premier ministre s'y était engagé. On arrive au bout du chemin.
Pas
certes,
encore.
Il reste encore quelques jours. Mais au fond, au bout du chemin, on se dit, se priver du 49-3 est une erreur.
Si on disait on s'en priverait pour toujours, oui, ce serait une erreur. Si on disait aussi, on ne va pas continuer à chercher un compromis, ce serait une erreur. Parce que le respect du Parlement, même s'il est composé comme on le sait, c'est quand même de faire en sorte qu'il puisse voter un budget de manière claire.
Vous y croyez encore ?
J'y crois parce que c'est pas moi d'y croire, c'est aux acteurs de se poser cette question. Est-il responsable ou n'est-il pas responsable de voter ou de ne pas voter un budget dans la situation dans laquelle nous sommes. Bien sûr que ça sera pas un budget de gauche, bien sûr que ça sera pas un budget tel que le gouvernement l'aurait souhaité ou qu'une partie de la droite l'imaginait. Mais ça sera le budget de la France parce que nous avons besoin de ses dépenses et de ses recettes. Et il y aura des efforts à faire, et notamment pour les plus fortunés.
Alors justement, au Sénat, l'un des amendements socialistes qui vient d'être déposé, selon les informations de mes confrères des Échos, ce serait de contraindre les plus fortunés à faire crédit à l'État, à prêter à taux zéro, à l'État, vous soutenez ?
D'abord, quand on demande une contribution aux plus fortunés, c'est quand même par l'impôt. C'est ainsi qu'on le fait. D'ailleurs, ça vaut pour les plus fortunés comme pour les autres. On vous demande pas de prêter de l'argent à l'État. On vous demande de payer vos impôts si vous êtes dans les situations qui le justifient. Ben là, c'est la même chose. Il y a des mesures à prendre fiscales sur les plus fortunés. Et puis, il y a une possibilité patriotique qui serait de dire, bah écoutez, vous allez donner, en plus de vos impôts, une partie de votre épargne pour qu'elle soit investie dans les dépenses publiques et remboursée au
Mais c'est pas une contribution
années.
Volontaire, ce serait une contribution obligatoire. C'est-à-dire, ce serait vous nous prêtez, mais vous n'avez pas le choix.
Oui, c'est-à-dire, vous avez le choix, d'abord, de payer un impôt, quand même, ça, vous avez pas un choix, c'est même obligatoire. Mmh. Et puis, vous avez l'obligation, pendant 2 ou 3 ans, c'est ce que proposent des sénateurs, de donner par l'épargne une partie de ce que vous avez pour financer les investissements du pays.
Donc, il faut aller vers
non,
cet emprunt
aller,
obligatoire.
On verra, c'est une idée,
des plus riches.
Une idée parmi beaucoup d'autres. Je ne sais pas si elle sortira d'ailleurs de le débat au Sénat, mais ça fait partie des idées. On n'est pas habitué, parce que généralement, comment ça se passait pour un budget ? Le gouvernement présentait un texte, il était très peu corrigé, et puis il était adopté à la fin. Ça, c'est quand on avait une majorité. Maintenant, il n'y a plus de majorité, donc il faut entendre tous ceux qui expriment des propositions ou des initiatives.
Qui peut battre Jordan Bardella ? Vous avez vu les dernières études, notamment ce sondage au Doxa d'il y a 2 jours, qui dit que qui qu'on mette face à Jordan Bardella, c'est lui qui gagne.
Oui, écoutez, bon, j'ai été candidat avant d'être président de la République. Les annonces un an et demi avant du candidat victorieux, généralement, ne se vérifient pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un mouvement. Ça ne veut pas dire que ses intentions de vote n'aient pas de signification. Je veux dire, rien n'est écrit. Rien n'est écrit, ça veut dire que tout dépendra de la qualité, de l'offre, de la personnalité qui sera, pour ce qui concerne le centre droit ou la gauche, capable de convaincre les Français. Pas de battre M. Bardella. La vie politique, c'est pas de battre les autres, c'est de donner suffisamment d'espoir, de crédibilité, de confiance. La confiance, c'est très important dans le contexte qu'on vient d'évoquer. Sur qui faire reposer notre confiance ? Pour agir, pour préparer la paix, pour éviter la guerre, ou pour un moment prendre nos responsabilités. Qui ? Eh ben, c'est sur la personne, sur les idées, sur la capacité d'action que les Français jugeront.
Y aura-t-il une primaire ? Y êtes-vous favorable ?
Je n'ai jamais été favorable aux primaires. Je pense
enfin, ça vous avez plutôt réussi.
Oui, mais dans un parti. C'était une primaire dans le Parti Socialiste. Ça peut toujours arriver. Pour choisir le candidat, c'est normal que les adhérents...
Le parti, oui, une sorte de primaire
non,
ouverte
qu'il faut
à toute
avoir,
la gauche, non.
Pour une primaire, pour qu'elle soit valide, il faut que ceux qui s'y présentent, celles qui s'y présentent, aient le même programme. Eh ben, ce n'est pas le cas aujourd'hui.
Vous avez dit, François Hollande, que vous étiez redevenu député pour faire battre... pour permettre à ce qu'il n'y ait pas le RN. On le sent bien dans les dernières études. Alors même si vous dites un an et demi avant, oui, mais en tout cas la dynamique du côté du RN, elle est testée partout. Est-ce qu'il faut à un moment ou à un autre que vous-même vous alliez plus loin ? Est-ce que vous envisagez, ou en tout cas est-ce que vous ne fermez pas la porte à l'idée d'être un nouveau candidat ?
C'est pas l'annonce de candidature qui fait que les Français soient convaincus. Ce qui compte, c'est la dynamique qui est supposée, non pas simplement enrayer une autre dynamique, mais convaincre les Français que c'est que vers cette force-là qu'il faut aller. Eh bien moi, je vais tout faire pour que dans les prochains mois, c'est pour ça que je ne veux pas qu'il y ait une crise supplémentaire ou un chaos, on a besoin de temps jusqu'en 2027, pour que cette force positive, parce qu'il faut
mais
être positif.
Mais vous ne dites
positif.
Pas non, vous ne dites pas non.
Non, moi, je
vous dites
pas.
Si,
non, non,
si
non,
la
non,
chance,
non, je vais pas rentrer.
Vous l'avez même dit,
non,
vous avez dit si la chance est là, il faut la saisir.
Oui, bien sûr, ça fait partie de ce qu'est la vie, mais les Français sont tellement lassés de ces annonces de candidature que c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de créer la force et puis la personne, vous allez voir, va surgir.
En tout cas, vous y croyez toujours à ce budget. Merci François Hollande d'avoir répondu à mes questions, à la fois ancien président de la République et député socialiste, donc une seule et même personne. 8h47.
Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50. Face à Canteloup.
Face à Canteloup comme tous les matins. Et François Hollande, le vrai, est resté dans ce studio. Rebonjour François Hollande.
Bonjour. Bonjour Nicolas Canteloup. Merci d'être dans nos studios.
Voilà, tout à fait. Exactement. Nicolas Canteloup. Donc je le disais, François Hollande est resté avec nous. Je retente ma chance. Allez-vous vous présenter en 2027 ?
Madame Dumalier, j'ai bien compris que ce matin, vous jouez avec moi au jeu du chat et de la souris. Mmh. Vous êtes le chat, je suis la souris. Disons-le, une belle souris, quand même. Pour moi, non, l'enjeu, Madame Dumalier, n'est pas de l'annoncer, surtout de ne pas l'annoncer. Il faut surtout laisser planer le doute, pour que ce soit repris dans les médias, de façon exponentielle. Mais faire planer une souris, c'est pas si simple.
François Hollande, est-ce que vous avez quand même envie d'y aller ?
Alors, envie d'y aller, Madame Malherbe, être président, ce n'est pas qu'une volonté. Ce sont des circonstances. Il faut une dynamique. Et là, je ne sens pas la dynamique, je ne sens pas les circonstances dans ce studio bordélique, plein de fils, de micros à des inconnus. Non, il faut une forme de solennité. Ah oui. Car je vous le rappelle, j'étais président de la République. Oui, ça c'est la chose que j'aime bien rappeler régulièrement. Je ne sais pas si je trouve une forme de cajolinothérapie.
C'est ça, tout à fait.
Bien sûr, j'ai envie d'y aller.
Bien sûr.
Pareil, franchement, j'ai envie d'y aller, mais je ne peux pas le dire. C'est comment vous dire, c'est comme une envie pressante. Parfois, on a envie d'y aller, mais on ne peut pas le dire sur les toits. Voilà. Mais je voulais surtout être ici pour annoncer la sortie de mon livre pour Noël.
Ah.
Il s'intitule Journal d'un président populaire. Ben quoi, moi aussi, je peux enjoliver un peu. Hein. Le président Sarkozy a été en prison seulement 21 jours. Ben moi, pareil, j'étais populaire 21 jours.
Merci, monsieur Hollande. Tout de suite, les titres de l'actualité avec Thibaut Texer.
Oui, bonjour Apolline, ici Thibaut Texer, le journaliste qui met tellement d'intensité dans sa voix qu'on ne la mesure pas en décibels, mais bien sur l'échelle de Richter. C'est parti pour les titres. Après le départ du zoo de Beauval, de Wanwan et Wanzi pour la Chine, il ne reste plus en France qu'un seul panda adulte, Jean-Pierre Raffarin. Et il est en ligne avec nous.
Oui, bonjour, monsieur Texer. Bonjour à François Hollande, que j'apprécie beaucoup, bien sûr, bien évidemment. Jean-Pierre Raffarin, R-A-F-F-A-R-I-S. Rassurez-vous, nos amis chinois enverront bientôt aux eaux de Beauval, en échange d'autres espèces en voie d'extinction en Chine. Ils nous enverront donc chez nous un couple de Tibétains, trois Ouïghours et un exemplaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Bien sûr, merci Jean-Pierre Raffarin. Reprenez Thibault.
Oui, la prime de Noël sera donc versée dès le 16 décembre à plus de 2 millions de familles bénéficiaires. Pascal Pro a souhaité réagir.
Écoutez, oui, une prime de Noël, on peut pas dire non, oui, c'est très bien, mais est-on sûr qu'elle sera versée uniquement à des gens qui ont fait leur baptême ?
Ah, bien sûr, c'est la question.
Mais oui, mais c'est parce qu'il faut le rappeler, monsieur Hollande le sait, excusez-moi, mais Noël, c'est chrétien. Alors, comment fait-on avec ceux qui ne le sont pas, hein ? On met en place une prime de Ramadan, c'est ça ? Oui, hein ? Écoutez, je ne suis pas obtus, alors, d'accord, allons-y, donnons-leur une date, quelques pois chiches et un verre de lait de chameau, de chamelle. Oui, excusez-moi, je ne suis pas expert de cette culture.
Merci Pascal Pro. Hier, à la foire de Vesoul, Jordan Bardella s'est fait enfariner. On n'a pas les images, mais nous avons Marine Le Pen avec nous. Hein.
T'as voulu voir Vesoul et t'as pas vu Vesoul. Mon Jordan, il n'a pas vu Vesoul, mais oui, il a vu la farine dans les yeux. Je soupçonne. Et quelle est la marque de cette farine ? C'est la farine Francine Insoumise. pardon, non, je me moque de Jordan, mais c'est vrai que je suis mal placé, parce que moi aussi j'ai vécu ça, et ce n'est pas très agréable.
Ah bon ? Vous vous êtes fait enfariner, Marine Le Pen ?
Ben oui, souvenez-vous, tout le monde l'a vu. Au débat du deuxième tour, je suis arrivé la gueule enfarinée. Alors...
Merci Marine Le Pen.
Ce n'était pas le cas de M. Hollande, qui s'était bien préparé.
Fait enfariner d'ailleurs. Marine Le Pen, Emmanuel Macron a pris la parole hier depuis l'Afrique du Sud.
Oui.
Pardon.
Oui, pardon.
Bonjour à toutes et à tous. Pardon, j'étais totalement perturbé. C'est vrai que lorsque je n'ai pas le discours sous les yeux, je suis moins à l'impro que Monsieur Hollande. Écoutez, j'ai rappelé que je voulais, et je la veux, je veux la paix. Mm. D'ailleurs, si j'ai quitté la France pour passer 5 jours en Afrique du Sud, c'est justement pour avoir la paix.
Oui, c'est tout à fait ça. Vous confirmez qu'en cas de conflit, vous n'enverrez pas nos enfants sur le front?
Écoutez, j'ai déjà répondu à cette question, madame de Malherbe. Pas de confusion. Nous ne prévoyons pas du tout d'envoyer nos jeunes là-bas. On a besoin de militaires aguerris, de militaires de carrière, de professionnels, pas de gamins capricieux qui vont chouiner parce qu'ils n'auront pas assez 5G hein, pour scroller sur TikTok. Hein. Parce que je vous préviens, le général Mandon, vous l'avez compris, c'est pas un rigolo de kermesse, c'est tolérance zéro. C'est pas l'école Montessori, ok?
Merci, monsieur le président. Dans l'affaire du cambriolage du Louvre, 4 nouvelles personnes ont été interpellées hier et on va faire le point avec la procureure de Paris, Laure Becchio. Madame Becchio!
Oui? C'est à moi?
Oui,
c'est à moi. Oui,
oui, on vous entend.
On m'entend. Alors, le point. Nous avons arrêté donc de nouveaux suspects. Ah. Hein, voilà. Donc, mais pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous révéler leur nombre. Je peux juste vous dire qu'ils étaient au nombre de 4, 3 hommes et 2 femmes. Peut-être avez-vous des questions?
Oui, oui, madame Becchio, c'est Apolline de Malherbe ici, RMC. Est-ce que les enquêteurs sont toujours aussi mobilisés qu'au début?
Alors, écoute, je suis très à l'aise pour répondre. Hein. L'enquête est en cours, notamment en cours de maths, hein, pour essayer de résoudre notre problème. Sachant qu'une nacelle A se déplace à la vitesse d'un kilomètre en plan incliné et qu'une disqueuse B peut atteindre de 12 000 tours minute, calculez au bout de combien de temps on va retrouver ces putains de bijoux.
Est-ce qu'on a une idée d'où ils peuvent se trouver ces bijoux?
Alors, par rapport aux bijoux, je suis très à l'aise pour vous répondre. Le premier mot qui me vient, c'est... Voilà. Mais nous avons quand même des éléments. Hein. On sait qu'ils sont, d'après la police scientifique, nous savons qu'ils sont précieux. Deuxième élément, donc bijoux sous genou cailloux. Ils sont invariables. Voilà. Et surtout, ils sont introuvables. Voilà. Alors, je vous annonce que comme jusqu'à on a paumé les bijoux, on a paumé de Malherbe aussi. Alors, je vous annonce que comme jusqu'à maintenant, nous cherchons les bijoux et nous ne trouvons que des suspects, nous allons changer de stratégie, nous allons chercher des suspects et peut-être qu'on trouvera les bijoux. En tout cas, tous les services de l'État restent mobilisés. Hein, moi-même, en tant que procureur, la juge d'instruction, le directeur de la police judiciaire, épaulé bien sûr par Julie Lescaut, l'inspecteur Gadget.
Merci. Merci Nicolas Cantu et à demain même.